Salut, c'est Mimi Hegel. Dans la vie, je suis créatrice de contenu indépendante sur Internet. Vous pouvez me retrouver sur Twitch, sur Instagram, sur Twitter et sur Patreon sous le même at, à savoir MYMYHGL. Vous allez écouter un débrief de série, d'abord diffusé en live Twitch. C'est pour ça que j'interagis avec le chat et que j'évoquerai parfois des éléments visuels que vous ne voyez pas. On a commencé avec House of the Dragon saison 1 en compagnie de Tequila Tex, mais il y a tellement de bonnes séries dans le monde que ce flux continue à vivre, avec toujours des invités de qualité. Bonne écoute!
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bienvenue Fabrice sur ma chaîne.
Merci pour ton invitation Mimi.
On va passer immédiatement au débrief de cet épisode 8 de Succession saison 4. Nous sommes à 2 épisodes seulement de la fin.
Tu te rends compte que c'est bientôt la fin ?
Non, je suis un peu dans le déni. Qu'est-ce qu'on va faire après Fabrice ?
Bah
je
rien, sais pas. On va regarder.
Ah, avant qu'on se lance, peut-être. Question du coup pour le chat. Qu'est-ce qu'on va faire après ? En vrai, on en parlait tout à l'heure, il n'y a pas de grosse série immédiate qui suit... Succession. Comme on a pu avoir un bon ride House of the Dragon, The Last of Us, Succession dans un temps assez rapproché sur HBO. Du coup, je sais pas trop, alors on n'est pas obligé de faire des débriefs de séries, mais si jamais il y a des séries que vous vous attendez et qui arrivent, voilà, en juin, juillet, août, dites-le nous dans le chat. On peut faire un rewatch de Lost, mais c'est loin, la mif, mais on, si vous êtes chaud, on peut, mais il va falloir être avec moi. Parce que si vous me lâchez tous et toutes, mi-saison 2, et que je suis toute seule avec 3 saisons et demie de Lost à refaire solo, ça va être chaud.
Ça
mais
être
peut-être!
Chaud.
Bon bah rewatch de Lost. Mais à part ça, si dans les séries actuelles et nouvelles, il y en a que mais ce sera pas avec toi Fab.
Non mais c'est même pas ça, c'est qu'il y a quand même plein de séries qui existent aujourd'hui pour être pas être obligé de se retaper des séries qui ont 20 ans arrêtées.
Mais c'est pas, tu sais, le voir avec un œil nouveau, c'est aussi voir l'héritage que toutes ces discussions qu'on a actuellement, eh ben on doit un petit peu à Lost.
Oui, alors je suis d'accord dans cet ordre d'idées, mais c'est quand même très long.
C'est, oui, Lost, c'est 24 épisodes par saison,
fais
c'est
un
vraiment
live
long.
Sur Lost, si tu veux, tu vois.
Non, mais saison par saison, on va pas faire tous les épisodes une fois par semaine, parce que pour le coup, effectivement, ça dure des années. Je le sais, car ma podcasteuse préférée l'a fait aux États-Unis, Joanna Robinson, je l'aime tellement. Elle a fait tout Lost, et c'était très long. Je ne vais pas faire ça, elle
incroyable.
L'a fait pendant le confinement, avec ses deux co-hosts. Parce que c'était un podcast sur Game of Thrones à la base, et Game of Thrones, c'était fini. Et du coup, ils étaient là, qu'est-ce qu'on fait ? On refait Lost ? Et après, ils ont refait Lost. Hello Léa, dans le chat. Alors, Tamish nous dit un débrief global de Ted Lasso. Oui, ça, on va faire.
Oui.
C'est dans... Alors, Ted Lasso, on en a l'épisode...
Ça aussi, c'est bientôt fini.
Ouais, c'est 13 épisodes.
Six
et pas, et pas 10.
Okay.
Donc, je pense qu'on est à un petit mois de la fin de Ted Lasso, en tout cas sous cette forme-là. Donc, on peut parler de dernière saison. On fera sûrement, oui, un live débrief de Ted Lasso. Ah oui, ils ont dit que c'est la dernière saison sous... Enfin, c'est au revoir à Ted Lasso et aux personnages et tout. Et pour moi, ce que j'entends dans c'est la dernière saison sous ce format-là, c'est peut-être un spin-off sur, je sais pas. Là, une des théories,
coach.
C'est que voilà, Roy il devienne coach parce que Ted il repartirait au.
Moi, je voudrais coach
Beard.
Beard.
Ah oui, bien sûr, coach bien sûr. Beard. Je veux un préquel sur lui.
Ah oui.
Non, mais une des théories pour la fin de Ted Lasso rapidement, hein, parce que on peut pas parler de succession, c'est que Ted Lasso repart aux US pour être plus près de son fils. Roy Kent devient coach à sa place et on pourrait avoir un spin-off sur Roy Kent, tu vois. Mais c'est pas forcément l'idée. Il faut partir du principe que c'est probablement la dernière saison de Ted Lasso qui est en train de se jouer maintenant.
Oh, la dernière saison de Marvelous Miss Maisel, elle est incroyable. Merci beaucoup de l'avoir mentionné. C'est Mimi, ils arrivent...
J'ai essayé.
Non, mais je sais. Mais
m'embrouille pas.
Donc, c'est la saison 5. Et ils arrivent à faire en sorte de replacer les personnages dans le temps en faisant des flashbacks, des flash-forwards et que ça reste hyper clair pour le téléspectateur. C'est incroyable. Vraiment, cette dernière saison est incroyable. Rien que pour celle-là, elle vaut la peine de regarder les quatre autres.
Vraiment. Non, quatre saisons, c'est vraiment long pour une saison. C'est comme genre, ouais, Better Call Saul, la dernière saison, elle est incroyable. Ouais. Si j'ai essayé trois fois de regarder cinq épisodes de Better Call Saul.
Mais c'est que t'as pas trop de
What
goût.
What else can I do? D'où j'ai pas de goût? Attends.
Bah, voilà.
J'ai un goût certain. Exquis. Il y a des gens qui regardent Succession uniquement parce que j'ai dit que c'était bien. Oui. Même si à la base c'est parce que
t'as
Fabrice m'a dit que c'était bien. Un an, ça va, je le dis à chaque fois que c'est grâce à toi que je regarde Succession.
C'est pas pour dire ça, c'est juste Better Call Saul, c'est pareil. C'est
mais je dis pas que c'est pas bien, je dis je rentre pas dedans, je vais pas me forcer, tu vois. I tried, c'est comme The Leftovers. Alors que j'adore Lost, The Leftovers ça marche pas. C'est pas très grave. Ok, bon, vous avez pas l'air d'avoir beaucoup. Alors, on a eu Ted Lasso, on a eu Miss Maisel que je donc Ted Lasso, on fera sûrement un live fin de saison. J'ai prévu aussi un live sur Silo saison 1 qui est actuellement qui vient de commencer sur Apple TV+, qui est un truc de SF, l'adaptation d'un bouquin que je viens de lire pour pouvoir voir le travail d'adaptation. Donc on fera sûrement un débrief de la saison 1 ensemble, mais je me rends pas compte à quel point c'est regardé les séries Apple TV, ça marche pas de fou. Il y a Black Mirror qui arrive sur qui revient sur Netflix en juin, pareil, on fera sûrement une discussion sur mais du coup sur le batch d'épisodes en entier, ou peut-être qu'on coupera en deux, mais je pense que Netflix va tout sortir d'un coup, comme d'habitude.
T'as pas encore regardé Beef? T'as pas terminé?
J'ai vu la moitié, et je t'avoue que plus ça va, plus je me dis, bon, il y a pas un moment dans ma journée où je me dis, tiens, comment ça finit Beef?
Ah ouais, ok.
Acharné sur Netflix.
Incroyable.
J'ai pas détesté, mais
c'est incroyable.
Pas mal. Et mieux que la plupart des prods Netflix en ce moment,
oui,
je trouve.
C'est ça.
Selling Sunset. Me tentez pas. Après, on va faire des lives avec Alix Martineau sur les télé-réalités curse de Netflix, mais j'essaye d'arrêter.
Love is
Blind.
Donc,
Love is Blind, Selling Sunset, Perfect Match, Too Hot to Handle. On est Al, hein. On n'est pas fier, mais on est Al.
Wow.
Alix dit ouais dans le chat. Écoutez, il y a une nouvelle saison de Selling Sunset dans 3 jours. Est-ce qu'un jour il y aura Alix Martineau et Kalindi Ramphal sur cette chaîne pour en parler avec moi? Peut-être, peut-être.
Ah oui, c'est vrai qu'il y a The Bear.
Ouais, il y a The Bear qui revient. Mmh. The Bear, c'est super, c'est sur Disney+. Pareil, je me rends pas compte de si ça va cartonner, mais nous on va regarder ça, c'est sûr.
Oui.
C'est une série sur un mec qui reprend un resto en plus, donc il y a de la bouffe, et vous savez que c'est
ma passion.
Il y a des
doses de frères, de masculinité toxique, de masculinité positive.
De deuil aussi.
De
succession.
Oui.
Parce qu'il reprend le resto de son grand frère.
De famille, de machin, et puis il y a des flashbacks, on comprend un peu mieux. Oh là là.
Trop trop bien.
C'est un truc qui manque un peu dans Succession justement, c'est... Tu vois, j'adore comme ce qu'ils sont en train de faire justement dans la saison 5 de Miss Maisel, parce que ils font des flash-forward énormes, donc tu vois où elle est dans 20-30 ans.
Ok.
C'est extraordinaire. Et en fait, il y a un truc un peu qui
manque. Ah oui, c'est risqué de faire ça.
Et tu vois, et pareil, en fait, ils reviennent aussi quelques années en arrière pour que tu comprennes un peu mieux les parents. Enfin, je trouve ça canon. Et franchement, je crois que s'il y a vraiment un truc qui manquera dans Succession, c'est de comprendre un peu mieux l'enfance des gamins, d'où ils viennent, de comprendre peut-être Logan jeune, tu vois, d'avoir pu... Mm. J'aurais adoré que la dernière saison, elle fasse ça, en fait. C'est-à-dire que juste, il te remontre un peu de contexte, ce que Better Call Saul fait beaucoup aussi, mais tu le sais pas, puisque tu ne l'as pas vu.
Mais si, j'ai vu la dernière saison avec Nodus.
Oui, mais ils ont... Ils font beaucoup ça. Et c'est vrai que c'est un peu... je crois qu'à la fin, c'est un peu ce qui va me manquer, quoi. C'est-à-dire que c'est trop... Il reste beaucoup dans le moment présent, quoi.
Bah, c'est que ça, et je pense que c'est un choix, ce côté. Il y a aussi un côté, surtout dans cette saison qui se passe sur une temporalité assez courte. Il y a un côté course effrénée. Tu sauras jamais tous les petits moments et les petites choses qui ont mené à ces gens, ils sont ce qu'ils sont. Mais je trouve qu'on en sait assez pour deviner, et que c'est un vrai choix pour moi de création, quoi.
Ouais, je suis d'accord.
La musique est un poil forte. Ok, Alinoun, merci, je baisse. Ok. Bon, écoutez, ça va être l'heure de parler de Succession. Saison 4, épisode 8. Comme d'habitude, petit point spoiler, on va vous raconter tout ce qui s'est passé dans Succession, cet épisode compris. On n'a rien, on n'a pas d'infos sur la suite. Il ne reste plus que 2 épisodes, mais on fera des pronostics. Si vous n'êtes pas à jour, merci d'avoir été parmi nous. C'est pour toi, Nodus. Bisous. Et si vous êtes à jour, restez avec nous. Petit moment générique et on se lance. À tout de suite. We're back. Désolé, on fact-checkait un truc parce que, direct dans le chat, Madame Wolowitz en caps lock dit « Attendez, qui sont les nouveaux gosses dans le générique de Succession ? Il y a des blonds. » Et je vérifiais juste que c'est bien toi, Madame Wolowitz, qui m'avait demandé sur Instagram « Est-ce qu'il y a des nouvelles images dans le générique ?» Et alors, je l'ai regardé et j'étais là « Non, je crois pas. » Mais oui, alors attendez.
Il y a des nouvelles images par rapport à la saison 3, on est bien d'accord.
Oui, oui, il y a des nouvelles images dans la saison 4 par rapport à la saison 3, tout comme à chaque saison, je crois, ils ont fait ça. Attendez, Succession... Opening credits. Je cherche sur Google en moins de 24 heures, car je suis une professionnelle. En vrai, je l'ai re-regardé après avoir reçu ta question et j'étais là, non, il y a pas de, dans cet épisode spécifiquement, il y a pas, je crois, de nouvelles le petit blond dans sa voiture rouge. Mais on l'a toujours vu, ce petit gamin,
depuis le début de la saison.
Au moins depuis le début de la saison, ouais. Il a toujours été là, le petit gamin dans sa voiture rouge.
Pour moi,
voiture
c'est Roman. Mais bon.
Oui, je pense aussi. Sauf si on croit à la théorie de ce sont les enfants de Tom et Shiv. Alors, théorie peut-être mise à mal dans cet épisode par la relation Tom-Shiv qui ne va pas en s'améliorant, je dirais.
Bah, ceci dit, on ne sait pas ce qui se passe l'épisode prochain.
Très clairement, tout
le
peut arriver. Hein.
Match, enfin, pour moi, oui, vraiment, là, on est sûr. Faites ce que vous voulez, moi je m'assois et je vous laisse faire.
Il y a Zmud qui nous dit sur l'Insta de Succession ou de HBO, il y a une vidéo avec les quatre génériques en même temps. Oui, je l'avais vu passer sur Twitter où du coup tu peux bien voir les différences. Mais ils ne changent pas d'épisode en épisode, de saison en saison seulement. Et Marina nous dit merci Mimi de faire ces débriefs. Merci Fab et merci à vous d'être là. Personne autour de moi ne regarde Succession, ils n'ont pas de goût, donc merci
nul
d'être là. On comprend la détresse d'être la
Alors
seule
moi,
personne à regarder une série. Non mais ça va.
Parce que vraiment,
on dirait que je t'ai jamais recommandé de série de ta vie,
saison
frère.
Saison 1, j'étais tout seul. Vraiment, il y avait
et
personne.
Et bah, The Bear, j'étais toute seule avec Nodius. Et après, t'as regardé.
Non, mais The Bear, j'ai regardé tout de suite.
C'est vrai, t'as regardé tout de
suite.
Non,
mais vraiment.
Mais pas parce que je t'ai dit que c'était bien.
J'ai pas dit, ok, je vais attendre dans un an et tout.
Je suis sûr que j'ai un meilleur exemple en tête, mais pas là, tu
vois. Non, je crois pas, en vrai.
Sharp Objects, ça avait pas bien un peu de...
Sharp
non, c'était Kalindi qui aimait
pas. J'ai pas regardé du tout.
Oh, c'est trop bien.
J'ai regardé un épisode, ça m'a saoulé. C'est trop deep. Trop.
Ouais, c'est pas fun.
Oui. J'avais envie d'un peu de marrant. D'une série comme Succession, par exemple. C'est marrant.
Bah, en vrai, on rigole tout le temps un peu.
On rigole
entre
moins,
deux crises existentielles.
Deux épisodes, on rigole moins.
Le wasabi, moi, j'étais, mais oui. MDR. Ça, on va en parler. Juste pour finir sur le générique de Succession. Pour info, peut-être que vous ne le savez pas, puisque je l'ai découvert la semaine dernière. En fait, c'est pas des images qu'ils ont tournées pour faire le générique de Succession. C'est des stocks vidéo de genre rich white people.
Incroyable.
Et je le sais parce qu'il y a quelqu'un sur Reddit qui regardait un documentaire Vice sur, pareil, les riches. Il y avait le plan du gamin qui fume un cigare. Et il était là...
Quoi ? Est-ce que c'est Kendall jeune ?
Et en fait, c'est une boîte de prod qui fait beaucoup de génériques de HBO qui avait fait toute une interview, mais il y a longtemps. Enfin, c'est pas un secret, quoi. Ils avaient un truc sur comment on a créé le générique de Succession. Et en fait, c'est des stocks vidéo, c'est pas des...
C'est incroyable.
Donc, toutes ces théories hyper deep de « Attends, le mec, on dirait pas vraiment Logan. Peut-être c'est Tom. Et l'enfant dans la voiture, c'est qui ?» En vrai, c'est
de la merde depuis
c'est des vidéos stock qui ont été choisies, mais pas créées pour l'occasion.
Est-ce que Schiff et Greg Nunt, ça, peut-être, il y a moyen ?
Non, toujours vraiment pas, je pense. Alors, cela dit, Marie Chanchan, qui est souvent dans le chat, Camille, m'a envoyé un DM pour me dire la théorie Greg Nunt est presque vraie, puisqu'au final, Greg a baisé Chivre. Ce qui est pas faux.
C'est vrai.
Alright, on est donc à un épisode, le bien nommé America Decides.
Oh.
C'est l'élection présidentielle américaine qui oppose le candidat républicain très 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 à droite, Jared Mencken, au candidat démocrate plus modéré, David Jimenez. Et on est dans la fourmilière haïtienne au moment du décompte des votes, etc. Et on va avoir une opposition entre tous les personnages, mais surtout les membres de cette famille, évidemment, entre est-ce qu'on suit le fasciste parce qu'il sert nos intérêts ou est-ce qu'on fait en sorte de peut-être pas encourager l'arrivée du fascisme au pouvoir aux États-Unis.
C'est bien de dire fasciste parce que quand tu dis très 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 à droite, c'est vraiment...
Oui,
de,
non,
ne,
c'est
ne
pas...
Pas lui rendre,
on n'est pas sur François Fillon, quoi.
Non, son discours de fin, il est glaçant. C'est...
Oui, ouais, on va en parler, mais on est sur des bons... Il y a des red flags partout, ça clignote très très fort. Oula, qu'est-ce que t'as pensé de cet épisode?
Ah bah, comme je te disais, en fait, je trouve vraiment qu'on... Effectivement, à part l'épisode du wasabi et de la flotte au citron, là, incroyable.
It's not that lemony.
En fait, ça y est, ça rigole plus, quoi. C'est-à-dire que vraiment, même les punchlines de Roman, elles sont plus drôles. Parce que
c'est plus des blagues.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire
parce que, enfin, ça a jamais été vraiment des blagues.
Bah, on s'en rend compte. C'est-à-dire que pour moi, c'est vraiment comme Dieudonné. Dieudonné, c'était marrant. Mm. Jusqu'au moment où on s'est dit, ah, en fait, le mec ne blague pas.
C'est pas une blague.
D'accord.
Là, on n'avait pas le bon prisme.
Désolé. Donc vraiment, ouais. Oh là là, mais quel épisode incroyable, encore une fois.
J'ai pris un peu de recul et je me suis dit waouh, vraiment Logan est mort et tout est parti en vrille extrêmement vite.
Normal.
Quoi. C'était déjà après c'est Logan qui a choisi Mencken et tout, donc il était clairement pas étranger à la situation dans laquelle on est maintenant, mais c'est un niveau de chaos où en fait tu sais qu'il va pas y avoir, papa va arriver et taper du poing sur la table, non. Tu vois, tout le monde est en roue libre parce que même Tom, Greg, etc. Donc l'épisode s'ouvre sur Tom et Greg dans les locaux de ATN et Tom il est toujours fatigué, il est fâché. il est pas bien, c'est moi en syndrome prémenstruel, franchement. Il est trop saoulé, et du coup.
Il est vraiment comme ça, quoi, depuis, ça fait deux épisodes.
Ouais. Il est bougon, quoi. Il est là, oh, Greg, arrête de dire bougon. Bougon? Oui, bourgeon. Et bougon. Bougon. C'est pas très naturel pour moi de dire bougon, mais je dis gif animé, donc peut-être. Okay. On peut débattre, mais c'est pas très intéressant, donc on va pas le faire. Je trouve que ça, ouais, ça pose tout de suite ce truc de, c'est stressant, il y a un enjeu, et on commence déjà. C'est comme dans un jeu vidéo, tu commences un combat, t'as un tiers de ta vie, tu vois, t'es là, oui. Je pars pas sur des bonnes bases.
C'est clair.
Donc le chaos qui va s'en suivre commence dès le début de l'épisode, et je trouve, j'avais peut-être jamais fait attention à quel point cette partie des locaux de ATN, elle est hyper claustro, il y a pas de fenêtre, il fait nuit en plus parce que c'est le soir, et c'est un bunker où t'as un labyrinthe, t'as l'impression que t'en sortiras jamais, et que t'es juste enfermé là avec ces gens, et que whatever happens, ça va mijoter, quoi.
Qui sont en pantoufles, donc en plus il y a vraiment un côté, ils vivent là. Parce que bon, apparemment, il y a un truc autour du.
Oui,
fait
Tom,
de...
il demande. J'ai entendu parler de couches pour adultes. Est-ce que on en est à ce point-là de. On peut pas aller pisser.
Non, ils peuvent aller aux toilettes. Okay. Ouais, c'est. Je suis assez d'accord avec toi. Et surtout, je trouve. J'avais pas compris que. Au départ, j'avais pas compris que les enfants, que les trois frangins, étaient à l'étage.
Oui, des mêmes locaux.
Des mêmes locaux. C'est, pour moi, ils étaient juste. Dans les bureaux de Waystar, quoi, mais pas du tout.
Non,
ils étaient là.
Ils sont au travail, et oui, il y a trois zones, en gros. Il y a la zone, donc le rez-de-chaussée, où il y a l'équipe média qui travaille, et où d'ailleurs les
the
chefs
floor,
ne sont pas sur the floor, et où les chefs ne sont pas censés aller. On va voir que c'est une règle de Logan qui va pas forcément être suivie. Il y a un genre de milieu de niveau, là où il y a Franck, Karl, qui sont en train de commenter, Hugo et tout, qui est genre la suite des executive suite, ils disent, donc pour le gratin de la boîte.
VIP.
Et il y a le bureau super secret, où il y a plutôt Kendall, Shiv, Tom, Rome, pardon, et Tom et Greg, qui naviguent. Donc il y a ces trois endroits-là, mais tous y sont. Open space claustrophobe, ça m'a tendu. On apprend deux trucs importants dès le début de l'épisode, c'est que Greg a passé la soirée avec Madson. Et Greg, il parle à Tom du fait que Shiv et Madson sont en bisbille. J'étais là.
Mais Greg, en fait.
Greg, il a l'info maintenant.
Greg, il est toujours. Greg, il est. Enfin. C'est pour ça qu'il survit, en fait.
Oui.
C'est qu'il est toujours dans les bons dos. Et il s'y retrouve totalement par hasard. C'est-à-dire. Souvenons-nous que dans l'épisode précédent, c'est les enfants qui l'envoient.
C'est Ken. C'est Kendall qui l'envoie. Donc en vrai. Kendall de l'épisode d'avant, il vient de se rendre service à Kendall de maintenant. Oh, à la base, il a envoyé Greg espionner Madson, et c'est là où Greg avait parlé du fait qu'il avait viré 100 personnes, et ça intéressait visiblement Madson. Et là, on apprend qu'ils ont fini ils ont passé la nuit à
faire. Qu'est-ce qui s'est passé?
Alors il dit, j'ai dansé
avec des vieux.
Avec un vieil homme. Ils voulaient pas danser, mais ils nous ont fait danser. Il était tellement confus. Et après, il dit, j'ai bu des choses qui ne sont pas des boissons. C'est quoi ton hypothèse sur...
Vu sa tête et son niveau de... Un peu trauma, quand même, parce qu'à plusieurs reprises, il dit « Je suis en train de récupérer d'hier, quoi, tu vois,
oui,
c'est chaud. »
Oui, il est en descente aussi. Hein.
Ouais. Je me suis dit « Est-ce qu'il a bu du pipi ?»
Ouais, je pense... On a sur le chat « Golden Shower, le retour de l'urine ». Je pense qu'on est sur des fluides, en tout cas corporels.
Sang.
Bah ouais, il y a le thème du sang, mais boire, c'est plus compliqué de
Madson
boire
et
du sang et tout.
Le sang, pourquoi pas. Mais oui, voilà, genre, Golden Shower, oui, effectivement, peut-être. C'est... Greg qui se retrouve dans une orgie à se faire pisser dessus. Écoute...
Je suis même pas, tu vois, moi j'y vois rien de sexuel, je pense que c'est un truc d'humiliation. Je les imagine pas en orgie partout, je les imagine en on bolosse Greg toute la soirée. Oh. Un peu Bore on the Floor. Ouais. Un mélange de Bore on the Floor et de dans l'épisode 1 quand Roman il s'amuse à faire croire au gamin qu'il va gagner $1 million au baseball, tu vois. Mais en même temps, le truc c'est avec Madson, c'est qu'on sait jamais est-ce qu'il dit des trucs parce qu'il est sous drogue et tout, mais en tout cas, il a dit à Greg qu'il bossait avec Shiv.
Incroyable.
Ce qui même pour lui est pas une super idée quoi, il sait que c'est secret son alliance avec Shiv et que si les deux zozos en entendent parler, ça va pas se faire.
En fait, pour moi, c'est aussi peut-être une manip de Madson qui en fait, lance des trucs et il verra bien comment ça retombe.
C'est vrai, oui, il est plutôt chaotique.
En fait, je trouve ça. En plus, je trouve ça assez malin, c'est-à-dire, ok, bah t'es en train de manigancer avec Shiv. En fait, si tu le dis à Greg, qu'est-ce qui se passe?
Bah, le risque entre guillemets, c'est que Greg le dise à Kendall et Rome et que du coup, Kendall et Rome, Madson, il va perdre son accès aux infos de Shiv, tu vois.
Oui, mais en fait, quoi qu'il arrive. à la fin, tu vois, il a le board, il a...
Enfin, tu... Si le voilà. deal se fait, ça, il y a si cette histoire de chiffres en Inde et tout. Mais moi, j'y vois aussi, en fait, Madson, dans l'épisode précédent, Shiv, elle lui a dit qu'elle veut un very, very big job. Very, very, very big job. Et pour moi, à ce moment-là, elle a perdu, Madson, parce qu'on en avait parlé, mais elle est pas très forte en égo. Et du coup, il s'est dit, OK, il me faut quelqu'un d'autre, je vais prendre qui? Le grand cousin, le résidu d'inceste, là, que je respecte pas, mais ça lui fait une autre voix en interne. Oui. Le géant des Habsbourg. Mais ça lui fait un mec en interne, et là où il a pas tort, il l'a peut-être bien cerné aussi, c'est que Greg, s'il lui promet plus que Kendall et Rome, Greg, il sera dans sa team.
Exactement.
Et parce que dans l'épisode précédent, Tom, il avait dit à Greg, pour info, Madson, ça pourrait être bien pour toi de te rapprocher de lui. Et Greg lui avait dit, moi, je veux bien, mais il me déteste. À partir du moment où Madson, il le déteste pas, comme il dit, ça va dépendre de à quel point, littéralement, Greg, il veut juste de la thune, c'est facile, quoi.
Une information que ce trou du cul de Shiv n'a pas compris.
Non, alors que parlera. Vraiment, genre, c'est qu'elle facile, Greg's egg.
Vraiment, elle est teubée.
Faites-lui
vraiment,
un chèque.
Désolé, mais c'est vraiment le seul personnage féminin dans cette putain de série. Et en fait, elle est nulle.
Mais ils sont tous nuls. C'est pas de sa faute si c'est la seule meuf. Et elle est en partie nulle parce qu'elle est la seule meuf, tu vois.
Ouais.
D'ailleurs, ce truc avec Greg, moi, ça m'a vraiment fait penser. Enfin, ça m'a mis en avant. Je trouve que la misogynie, elle se voit de plus en plus au fil de la saison, qui en plus est la dernière. Et ce truc de Greg qui part en soirée avec The Boys, parce qu'à mon avis, Eba, elle était pas dans la soirée. Ouais. Et qui, immédiatement, en une soirée, il devient one of the guys. Il a un accès privilégié à Madson. Il a des infos et tout. J'étais là, ouais, c'est vraiment un move de mec, tu vois. Il est rentré dans le Boys Club, en fait. Bon, et il est rentré plus facilement parce que, il a une bite et que Chival en a pas.
Il l'appelle quand même Grégory Pégory. Alors, je sais pas trop comment le traduire ça. Quand, tu sais, quand il est au téléphone en FaceTime. Déjà, il est en téléphone en FaceTime avec, en mode Zoom Zoom, tu vois, tu FaceTime pas des gens quand t'as pas envie de te faire
rigoler,
quoi.
Oui, non, ils sont pas très toujours bons en discrétion.
Il l'appelle Grégory Pégory. Et en fait, dans la traduction, ils ont appelé ça Grégory le petit kiki.
Ah, parce que le pegging, c'est ça l'idée. C'est pas petit kiki, c'est le pegging, c'est une pratique sexuelle qui consiste pour un homme à être pénétré analement. Donc, ok, mais et
j'ai
oui,
j'ai cherché ce que ça voulait pouvoir dire. J'ai pas trouvé sur
N'hésite
Google.
N'hésite pas à me demander tous les jeux de mots à base d'anal. Moi, tu sais, je maîtrise ça à fusée. J'étais ah oui, le pegging, bien sûr, évidemment. Mais il me fallait le contexte sexuel slash dévirilisant. C'est aussi en fait, il a dit un truc hyper homophobe la semaine dernière, Madson. Donc, il y a ce truc chelou. Donc on apprend que Greg c'est pour Madson et Shiv et il en parle à Tom et Tom lui dit mais je n'ai évidemment aucune idée de quoi tu parles. Mais Tom il se dit pas oula je vais enfin c'est grave que Greg il sache.
Il dit tu sais l'information c'est comme le bon vin. Ça se conserve précieusement, ça se sort au bon moment et après tu l'utilises pour fracasser la gueule d'un mec.
J'ai adoré cette réplique. Je crois que c'est dans mon top 3 des meilleure réplique de Succession, quoi. C'est vraiment... Et Greg, genre, il l'écoute. Et au moment où il dit « Tu éclates la tête de quelqu'un avec », Greg, il est là genre « Nice ». Tu vois, genre, c'est la promesse de violence et de entuber les gens qui lui fait plaisir.
Mais il propose aussi, Greg propose aussi de, genre... comment il lui dit genre,
Fry her ass up
à Shiv. Genre, est-ce que tu veux qu'on...
Oui, il va voir Tom en disant « Est-ce que tu veux qu'on s'allie ?»
Qu'on lui...
Parce qu'on sait que Shiv et Madson, ils bossent ensemble.
On va utiliser cette info, quoi, tu vois. Et Tom dit « On va garder ça précieusement.
Mm-hmm. » Et on verra que... Écoute, il l'aura pas gardé très longtemps, l'info, mais il l'aura sorti au bon moment et il aura éclaté la gueule de quelqu'un avec, puisque ça va faire très mal.
Oui.
Et on découvre aussi, donc c'est la scène où c'est les consignes de sécurité chez ATN que personne n'écoute. Et donc on découvre Darwin qui va être un personnage assez important de cet épisode. Est-ce que t'as reconnu l'acteur? Tu sais où tu l'as déjà vu?
Putain, j'ai mis longtemps, mais vraiment au bout d'un moment je me suis dit non mais ce mec me dit quelque chose là avec ses oreilles et tout, sa tronche particulière. C'est si je me trompe pas le fameux cofondateur de la boîte de Walter White dans Breaking Bad, c'est
ça? Tout à fait. Celui qui lui propose de lui régler ses frais médicaux liés à son cancer. Ouais. Et littéralement, si Walter White avait dit oui et qu'il n'avait pas laissé son ego refuser de l'argent, il y avait une autre série peut-être. Un beau drame, un peu touchant, sur un homme qui se rapproche de sa famille et qui surmonte
Malcolm,
le cancer.
Quoi, on s'en bat les couilles.
Oui, voilà. Je pense qu'on aurait moins rigolé. Mais oui, c'est cet acteur-là. Et alors, moi, j'ai pas compris tout de suite c'est qui dans la série, tu vois. Et je suis pas 100% sûre d'avoir... C'est le responsable élection et...
Pour moi, c'est la tierce personne.
Pour moi, c'est un indépendant, c'est ça.
C'est genre... C'est un mec de l'IFOP, tu vois. Ou c'est un mec...
Yes.
Pour moi, c'est un gars qui est pas dans la boîte, mais qui est quand même employé par Etienne à ce moment-là. Mais c'est un peu la figure indépendante, quoi. Enfin, je crois, hein. Dites-moi dans le chat si vous croyez que c'est autre
chose. Je crois que t'as raison.
À mon sens, c'est ça.
Parce qu'à un moment, juste avant la fameuse scène du wasabi, quand ils hésitent à annoncer un peu trop tôt que le Wisconsin est pro Mencken, ils disent, faudrait qu'on chope un indépendant ou quelqu'un. Toi, tu pourrais le faire. Ouais. Donc ça se tient. Et pendant cette scène de briefing de sécurité, il dit que s'il y a des leaks, donc si les infos privilégiés qui reçoivent fuite, ils pourraient être bannis du National
Consortium.
Election. Donc oui, je pense qu'ils représentent. Vous êtes un média qui a le droit d'avoir ces infos privilégiées pour préparer votre couverture des élections. Si vous faites n'importe quoi avec ces infos, on vous les donnera plus.
C'est à peu près ça.
Font-ils n'importe quoi avec ces infos, peut-être ?
Oui, tout à fait. Mais surtout, c'est très marrant de voir comme la responsabilité change au fil de l'eau. C'est-à-dire que d'abord, Darwin dit, en fait, c'est moi qui fais le fameux the call, tu vois, c'est moi qui fais the call.
C'est moi qui dis quand on peut dire.
C'est sa responsabilité. Après, il y a un moment donné où ça devient un Tom, tu vois. Et en fait, à la fin de l'épisode, on verra Tom qui dit, c'est pas moi, The Call, hein, c'est vous, les gars. Donc vraiment.
Oui. Et à la fin, il a pas de tort, parce que, à la fin, il va faire ce que Ken et Roman lui disent de faire. Si, à la fin, Ken et Roman avaient dit à Tom, tu n'annonces pas le Wisconsin pour Mencken, bah, il l'aurait pas fait.
Oui, mais ça n'est pas le rôle des frères.
Non!
De faire ça. Et je crois que pour le coup, on peut critiquer Logan de ouf et tout. Mais à mon avis, lui, il était vraiment en mode, j'habite, je m'en mêle pas. Le soir des élections, etc.
Oui.
On le saura jamais parce qu'encore une fois, on n'a pas toutes ces infos-là.
Bah, ils sont mêlés différemment, quoi.
Mais en tout cas, on a bien compris que ils descendaient pas dans la rédac comme ils le font là de façon hyper. Ils en ont rien à foutre, en fait.
Ah, ouais, ouais.
La séparation des pouvoirs, etc. Ils s'en battent les couilles.
Oui, bah ils sont moins subtils que leur.
Voilà.
Ils donnent moins
que Logan
aux apparences,
pas.
Quoi.
Voilà.
Et respectent moins les apparences de non, mais on fait les choses bien, ils sont là, fuck it, on va faire juste exactement ce qu'on veut. Il y a quelque chose que Roman dit beaucoup. Il dit, qu'est-ce que papa aurait fait? Il aurait fait exactement ce qu'il veut. Et
du
coup, Roman, il fait exactement ce qu'il veut.
Papa pouvait arrêter une guerre qu'il avait lui-même démarrée auparavant.
Oui, c'est genre, le mec, il faisait juste ce qu'il arrangeait, quoi.
Ouais.
On retrouve les siblings, les trois enfants, qui, comme tu l'as dit, sont tous là, sauf parce que Connor est dans son QG de campagne personnel, évidemment, il ne peut pas se mêler à la fête où il était bien sûr invité. On le devine, je pense. Ils sont dans ce bureau very secret et on voit déjà se dessiner les factions de l'épisode. Puisqu'il y a Shiv qui est très pro-Jiménez, Roman qui est très pro-Mencken et Kendall qui pendant longtemps va dire rien.
Mais pendant les 90% de l'épisode, il dit rien.
Il est très passif, quoi.
C'est-à-dire qu'il est juste en train d'observer, où tu vois qu'il est... Mais d'ailleurs, c'est très étonnant de le voir. Il est... T'as l'impression en fait qu'il est pas là, il est juste en train de regarder comme s'il était en hauteur, comme s'il était sorti de lui limite, à dire mais qu'est-ce qui est en train de se jouer, qu'est-ce qui est en train de se passer. On comprend aussi parce que il y a Rava qui lui passe un coup de fil assez rapidement, je crois d'ailleurs, qui lui passe un coup de fil en lui disant au secours, on nous suit, etc.
Alors en tant que non seulement que père toi-même, mais que penseur et interrogateur de la paternité, ta fille a un problème, a subi un acte raciste. Ne pas l'appeler et lui dire je t'aime, mais lui envoyer sans lui dire ni à elle ni à sa mère une voiture au vide teinté qui va la suivre en permanence. Bon move ou pas?
Parenting 101, hein. Franchement, faites ça vraiment pour créer des traumatismes chez vos enfants. Il y a pas de problème, ça marchera. En fait, c'est vraiment incroyable.
Il a pas prévu.
Il lui dit mais c'est exactement ce que je fais pour vous protéger, d'accord? Non, vraiment, t'as vraiment plein d'autres.
Il dit c'est une couche supplémentaire de papier bulle autour d'eux. Je suis là, c'est pas des objets, c'est tes enfants, il faut leur parler. Ça appuie un peu ma théorie de Ken l'a jamais appelé, hein, sa fille.
Sans
je
aucun
pense
doute,
pas ouais. qu'il lui a passé ouais. ce fameux coup de fil. Mais bon, il était occupé. Marina dans le chat nous dit Kendall, il sait pas quoi faire, j'ai l'impression. Moi, je le vois paralysé par je sais la bonne chose à faire moralement entre guillemets, mais je ne sais pas agir selon ma morale et je suis pas sûr d'en avoir une. Et en gros, il y a la solution facile qui est OK pour Mencken parce que il va bloquer le deal que je veux qu'il bloque et il y a la solution, il y a la bonne solution. Et il est juste, pour moi, il est vraiment paralysé. Il espère que ça va se régler tout seul, quoi.
Pour moi, ça se joue vraiment à l'intérieur de lui, entre tout son discours progressiste qu'il a pu avoir pendant les trois saisons où il était là.
Patriarchie.
Voilà, machin, tout ça. Nous, on va faire en sorte de, on est la nouvelle génération, on va changer tout ça, etc., etc. Et en gros, à un moment donné, ses intérêts, les intérêts de la boîte, son intérêt personnel à lui de foutre en l'air ce deal qu'il veut pas en fait et qu'il veut garder la boîte, et en fait il est en train de se faire rattraper tout simplement par sa propre réalité et ses propres paradoxes, quoi. Et c'est dur, je crois que moralement, psychologiquement, ça doit être dur à affronter, tu vois, de te dire ok, donc là maintenant c'est moi, en plus c'est lui qui est en charge, quoi, tu vois. C'est,
ah bah, il a voulu être
plus papa, hein.
Il a voulu être le chef. Et être le chef, des fois, c'est prendre des décisions compliquées et risquées et savoir faire passer autre chose plus grand que toi avant toi-même, ce qui n'est pas la passion des enfants de la famille Roy, de faire passer autre chose qu'eux-mêmes en premier. On a déjà aussi à ce moment-là les premiers échos de il y a des violences, il y a des feux, il y a des heurts, il y a, mais bon, nuit d'élection
on l'avait avec déjà un dans fasciste précédent, donc, candidat. Ils avaient attaqué.
Oui, il y avait un bureau de vote qui avait
en Arizona qui avait été attaqué, ou non, le QG de campagne.
Yes.
Voilà.
Avec des pétards selon Todd. Oui. Genre, c'était deux pétards scotchés ensemble et d'autres étaient en mode, c'est une attaque terroriste et tout. Il y a beaucoup ce truc de le même événement. En fait, c'est très confus, quoi. Il y a des événements. À qui les attribuer? Est-ce que c'est tel camp qui fait ça? Est-ce que c'est le camp d'en face? Tout le monde tire la couverture à soi. Et ça renforce l'impression de fébrilité de cet épisode où, en fait, on sait pas. Genre, on sait pas qui a été élu finalement.
Bah non.
Mais c'est pas la question. C'est pas pour qui ont voté les gens, c'est pas vraiment.
America Decides, voilà. C'est ça. C'est le titre de l'épisode, hein, America Decides. C'est, on le voit très vite, qui décide en fait. C'est pas du tout America. En vrai.
Tu t'attendais à quoi en vrai? Est-ce que tu te disais, ok, réponse facile, Mencken gagne. Réponse facile entre guillemets, genre c'est ce qu'on attend de Succession, c'est une série assez cynique et c'est choquant de faire élire un fasciste. Tu t'attendais à quel rôle vont jouer ces personnages dans une élection qui, au final, bah, il y a quand même un comptage officiel et des bureaux de vote. Donc, comment tu l'as vu venir ce truc de, OK, on est.
En fait, pour moi, il y allait forcément avoir un truc un peu abracadabrantex. Voilà, vous l'avez. Mm-hmm. Parce que je crois qu'on a tendance, nous, vu de France, à sous-estimer le trauma de l'élection de Trump, même si je crois que ça nous a beaucoup impacté nous en tant que Français, parce que c'était vraiment ok. Donc en fait, il y a vraiment moyen que ce mec sorti de nulle part finisse par devenir le président des États-Unis. What the fuck. Et pour moi, c'était vraiment une façon de, en fait, c'était limite la réalité, quoi, ce qui était en train de se passer là. C'est-à-dire que à un moment donné, Fox News à l'époque avait énormément contribué à
l'ascension de Trump.
Voilà, il y a eu tout un quelques années auparavant, en 2008, il y avait Al Gore contre George W. Bush. Et en fait, c'est pareil, il y avait un État, si je me souviens bien, qui n'était pas tout
oui,
à fait
Oui, alors
Baker.
J'ai noté, c'était en 2000, et c'était alors il y a eu en 2020. Fox a annoncé que Biden avait gagné l'Arizona et pas Trump, et a été largement critiqué parce qu'il, alors ils avaient raison, mais ça, apparemment, il y a eu des grosses tensions en interne. Donc Fox, qui est une chaîne de droite et plus la grosse inspiration de ATN, il y avait des grosses tensions en interne parce qu'il y avait des gens haut placés chez Fox qui étaient là, on veut pas, même si c'est vrai, on veut pas le dire parce que ça sert pas les républicains et les trumpistes, quoi. Ouais. Donc il y a ça, il y a l'élection de Trump en 2016, et en 2000 apparemment il y avait ce truc de Al Gore, plein de médias avaient annoncé Al Gore vainqueur, alors qu'en fait c'était Bush. Et le problème, comme il l'évoque,
ça s'est joué à
quelques
milliers de voix en fait. Tu vois, c'est ça qui est terrible, c'est que
ouais, ça se joue à pas grand chose, quoi. Et du coup, là où c'est risqué, il l'évoque à un moment dans l'épisode, c'est que comme il y a plusieurs time zones aux États-Unis, si tu dis Biden a gagné, potentiellement il y a des gens qui vont pas aller voter Biden alors qu'ils pourraient, parce qu'ils se disent bah c'est bon, il a gagné. Et en fait, les gens qui veulent voter Bush, ils vont aller, enfin, ou un fasciste, ils vont aller voter pour le coup.
C'est-à-dire que quand ça ferme à New York, il faut que vous partiez du principe que 3 heures plus tard, c'est encore en train de voter, et pendant 3 heures encore à Los Angeles sur la côte ouest.
Oui.
Donc c'est.
Si tu dis aux gens c'est plié.
Exactement.
Ils vont peut-être pas se déplacer.
Exactement. Et on comprend assez rapidement qu'en fait, on n'a pas vraiment le timing de la soirée, mais on comprend vite que en fait ils disent ok, il est 17 heures, les bureaux ont fermé à New York, mais ça veut dire qu'en fait il y a encore 3 heures de scrutin.
Oui.
Sur l'intégralité du pays, en fait.
Et en plus, c'est pas un suffrage direct, puisqu'il y a le collège, ils élisent le collège électoral, et c'est pour ça que selon à quel point l'État est peuplé, il va peser lourd ou pas, c'est pour ça qu'il y a les swing states, donc les États qui peuvent faire basculer. En gros, c'est pas si t'as 26 États sur 50, donc plus de 25, c'est bon. Il faut avoir le plus grand nombre de grands électeurs, et ceux-là, c'est pas réparti. Enfin, il y en a pas genre un par État. Il y en a selon la population de l'État. Donc, bah, par exemple, Connor et ses 5% en Alaska. La blague, c'est que l'Alaska, c'est genre l'État le moins peuplé. Ouais. Donc, il a vraiment 5% dans l'État qui a le moins de poids. Et là, on voit qu'il y a différents États, le Kentucky, le Wisconsin et tout, qui vont décider d'une certaine orientation, quoi. Mais c'est, j'ai beau avoir étudié la culture et la politique américaine à la fac, je suis rouillée et j'étais vraiment en mode.
Ah ouais, t'avais pas capté là les 270 grands électeurs.
C'est... Ah j'avais oublié ce système, mais je trouve que c'est pas grave de pas avoir les détails. Non. Tu comprends ce qui se joue et tu comprends qu'à la fin c'est boueux quoi. C'est pas propre, mais qu'on n'était pas sur. Dans tous les cas, c'était serré. Et rien que le fait que ce soit serré, mais un peu comme en France quand c'est serré entre l'extrême droite et la droite, t'es là. Attends, pourquoi c'est serré avec l'extrême droite, genre pourquoi ils sont arrivés déjà jusque là quoi? Je comprends pas pourquoi il n'y a pas une obligation légale d'attendre que le vote soit fini partout dans le pays. Bah, c'est des estimations, en fait. Tu peux considérer, enfin, oui. Par exemple, pendant une journée de présidentielle en France, les médias, toute la journée, ils font des estimations de,
Ils font pas ils font des estimations de vote. Du nombre de votants. Ils font jamais d'estimation. Justement, il y a toute une réglementation où t'as plus le droit je sais plus si c'est le vendredi soir ou le samedi avant l'élection, de sortir des estimations de vote.
C'est vrai.
C'est plutôt des estimations de gens qui sont allés voter. Ça, ils ont le droit. Jusqu'à 20 heures où, on a toujours le résultat de voilà ce qui se passe. Mais c'est obligatoire à 20 heures.
C'est vrai, c'est vrai. Bah, on n'est pas dans le même pays, hein. On est peut-être aussi sur l'aspect beaucoup plus libéral des États-Unis de, il y a des choses qui sont moins réglementées. Et, Alexander Skarsgård, qui joue Madsen, était interviewé par Joanna Robinson. J'étais fière d'elle. Et il a dit que, du coup, il a posé son regard d'homme suédois et européen sur la politique américaine. Et il disait, en fait, je pense que c'est compliqué pour vous de vous rendre compte à quel point c'est bizarre pour le reste du monde la façon dont ça se passe, vos élections. Enfin, et Succession, c'est aussi une série faite par des Britanniques, faut pas l'oublier. Et il disait, nous, en Suède, enfin, je sais pas si je peux vous expliquer à quel point c'est différent. Genre, oui, il y a deux partis qui s'opposent. Oui, il y a quelqu'un qui gagne à la fin, mais on le traite pas comme un match de MMA avec deux personnes qui s'affrontent avec vos spots de pub où vous insultez l'autre candidat et tout. Genre, on est en train de s'américaniser un peu et je suis pas pour, mais c'est déjà des années-lumière de comment eux ils font.
D'ailleurs, Madsen, dans cet épisode, représente un peu ce regard-là, parce que quand il y a le fameux Ravenhead, là, qui sort du bois avec des trucs complotistes as fuck, on va en parler sans doute après. Mais vraiment, il est là, alors que quand même Madsen.
Il est fracasse.
Il est taré. Et là, il est là, mais c'est complètement crazy, votre truc, là. Ouais. Ah oui, donc vraiment, c'est que c'est, même pour lui, alors qu'il est taré, c'est choquant, quoi. Donc, c'est dire.
Ouais, ouais.
It's crazy, effectivement.
Pour en revenir à l'épisode, il y a, alors, donc, on voit à peu près où chaque personnage se place. Kendall, il passe un petit coup de fil à Jiménez avec un degré de subtilité proche de zéro. Oh. En mode, en fait, en gros, vu que les estimations disent qu'a priori c'est lui qui va gagner, bah, Kendall, il veut sécuriser sa place de, tu te rappelles que tu vas, toujours ce truc de tu vas mieux réguler la tech et du coup empêcher le deal Gojo Waystar. Jiménez, il s'est engagé à rien. Nate, il a mis un stop à Kendall. Mais il continue à forcer et à essayer. Parce que si tu joues sur tous les tableaux, à la fin, peu importe qui gagne, tu gagnes, quoi.
Exactement. C'est là où Roman va être appelé
Par Mencken. Et c'est la première fois qu'on le revoit. C'est la première fois qu'on voit Mencken, dont on parle. Ils ont parlé de lui toute la saison. Mais on l'a vu qu'une fois. Et je trouve que c'est fou d'arriver à être aussi marquant en une apparition. Tu vois, genre Adrien Brody, en vrai, je l'ai un peu oublié, quoi, son perso. Oui, il n'a pas le même impact.
Pourtant, il se passe un truc fou dans l'épisode où il est, quoi.
Oui, carrément. C'était un super épisode, mais le perso est beaucoup moins légendaire, quoi. Mencken, c'est un peu le grand méchant loup dont on te parle. Épisode 8, Roman, il va le voir dans son QG de campagne. Qu'est-ce que tu penses de ce personnage? Qu'est-ce que tu as pensé de les revoir ensemble, être bizarre ensemble?
Bah déjà, il démarre en disant j'ai besoin que tu m'aides. En fait, moi, je pense avant tout à la défaite. Et ça, c'est incroyable. Parce que effectivement, perdre, c'est pas grave. En fait, ce qu'il faut réussir à faire, c'est à perdre avec panache et c'est à perdre avec tout le storytelling qui va derrière. C'est-à-dire, OK, en fait, on m'a volé l'élection, quoi. Ce qui est exactement ce que Trump a fait en 2020, où il refusait de... Enfin bref... Un cirque incroyable.
Roman, il lui dit, même si t'es pas président, tu seras notre président. Sous-entendu, le président selon ATN et selon Waystar, parce qu'il dit, en gros, ce sera la prochaine, quoi.
Et Roman, on voit, là, pour la première fois de l'épisode, je trouve, à quel point il est en mode, OK, donc en fait, tu t'es juste un homme liche de Mencken et tu vas juste lui sucer la teub jusqu'à ce qu'il finisse président, parce que, sans doute t'as plus à y gagner que qu'il y soit pas, quoi.
Et oui, et parce que probablement il est d'accord aussi avec au moins une partie de ses idées, quoi.
C'est-à-dire que jusque là on pouvait, enfin en fait pour moi on pouvait vraiment se dire OK, Roman est juste un mec provoque, etc. Là il montre vraiment son vrai visage.
Oui.
Et c'est très intéressant de voir son vrai visage, parce qu'il y a un moment donné d'ailleurs où il y a l'incendie là
Et puis il dit ouais, à tous les coups c'est des noirs ou des juifs quoi. Il est vraiment premier Doug.
Et franchement, quand Tom Wamsgams et Kendall Roy se retournent vers toi en mode mec, c'est abusé ce que tu viens de dire, c'est que c'est vraiment abusé ce que tu viens de dire parce que ils en ont entendu des vertes et des pas mûres quoi.
Ouais.
J'ai vu, j'avais pas la ref, donc Menken, il parle beaucoup de sa défaite et de sa potentielle défaite. Citation. Tout le monde peut gérer la victoire. Il n'y a que les mighty, donc comment tu dirais, les puissants. Puissants, qui peuvent supporter la défaite. Qui a dit ça?
Écoute, bonne question.
Adolf Hitler. Oui. Génial. La ref,
c'est
je
vrai
le...
Ouais. Putain, incroyable.
C'est une vraie citation d'Hitler et c'est vraiment, j'ai vu ça sur Reddit, genre en vrai, enfin tout son truc sur la défaite, c'est du Adolf Hitler dans le texte quoi. Moi je l'avais pas, car je n'ai pas en tête tant de citations d'Adolf Hitler, mais c'est réel. Donc le.
Oh, c'est tellement génial d'avoir placé ça comme ça et de.
Ouais.
Ceux qui savent quoi, en tant que scénariste.
Mmh. Et on reparlera évidemment de son discours de victoire, puisqu'il y a aussi pas mal de petites choses, de petites refs à avoir dans les mots qu'il choisit et tout.
Oui.
Il y a grosso merdo qui dit « Je crois qu'on avait envie de croire que Roman était dans la provoque, mais on nous a montré dans toute la série qu'il est d'extrême droite et que c'est une personne odieuse avec tout le monde, sauf sa famille, point d'interrogation. » J'ai envie de dire, même ça fait... Enfin, par exemple, la misogynie de Roman, elle s'exprime de fou avec envers Shiv, tu vois,
bien
où
sûr.
il est juste hyper sexiste avec elle et où il la prend pas du tout au sérieux et où il lui fait souvent des réflexions sexistes. Donc, j'ai envie de dire, même sa famille, quoi. Et il n'y a pas... Beaucoup de personnes racisées dans la famille Roy, pour une raison
papa.
Qu'on imagine aisément, mais je pense qu'il serait pas beaucoup plus sympa.
Avec son papa, qu'il était gentil dans sa famille.
Oui, parce qu'il a des problèmes.
Oui.
Mais oui, je suis d'accord avec toi. On est passé. En fait, on a passé 3-4 saisons, enfin 3 saisons et demie du coup, à le voir comme un troll.
Et à rire avec lui.
Ouais. Et à rire avec lui de son aspect chaotique. Et aussi, il avait un côté un peu. Il leur mettait un peu le nez dans leur caca, tu vois, de ouais, peut-être là où Kendall et Shiv, ils se drapaient un peu dans non mais on a des valeurs et tout. Roman, il était un peu plus cyniquement réaliste sur en fait à la fin on est des milliardaires blancs, tu vois, peut-être qu'on peut vous pouvez redescendre. Mais on s'attendait pas forcément à avoir autant d'émotions pour ah oui, c'est un néo-nazi. C'est à la fin, c'est un néo-nazi quoi.
Incroyable. Et c'est d'autant plus étonnant que pour moi il y a c'est un néo-nazi cultivé, c'est-à-dire que on le voit à quelques reprises, et notamment dans cette fameuse dans ce fameux épisode dans la saison 2 je crois, où il se retrouve kidnappé, tu sais, ou embrigadé, et tu le vois vraiment où il est
hyper
smart.
Il y a la prise d'otage là.
Ouais. Ouais. Tu le vois en fait où pour moi c'est les premiers moments où vraiment il montre qu'il est smart de ouf et qu'il comprend les trucs et qu'il capte ce qui se passe quoi. Et donc là pour moi c'est vraiment OK mec, non seulement t'es smart mais en plus t'as développé des idées d'extrême droite de ouf autour de cette intelligence, c'est que vraiment t'as décidé juste de voir le truc qui t'intéresse quoi.
Bah Menken aussi il a ce côté intelligent, tu vois. C'est pas un Trump où Trump il y avait cet aspect genre le mec a l'air, même quand il parle son élocution et tout, il a l'air bête et un peu vulgose, tu vois.
Ouais.
Et du coup j'ai cherché un peu c'est qui Menken en gros, est-ce que c'est le miroir de quelqu'un qui existe dans la vraie vie, parce que Succession est toujours dans cette dimension parallèle, mais voilà, Etienne c'est pas Fox mais c'est pas mal Fox, les Roy c'est pas les Murdoch mais c'est pas mal les Murdoch, et ce que bah, notamment l'acteur qu'il joue a dit, c'est que c'est un mélange évidemment de plusieurs inspirations, il y a un peu de Trump, il y a un peu du mouvement des Proud Boys qui sont du coup les mecs néo-nationalistes, néo-nazis aux États-Unis, mais il dit, pour moi, c'est pas une personne, c'est le futur. C'est les gars comme Menken, ils vont émerger et ça fait très peur. Mais pour moi, c'est la version dans 5, 10, 15 ans et peut-être plutôt de Trump, ça sera ça, quoi. Trump a ouvert la voie à le prochain Trump, il sera malin. Et c'est pire quand ils sont malins parce qu'il a ce côté un peu professoral. Moi, il me fait penser à Jordan Peterson, qui est un penseur masculiniste, mais aussi prof de psychologie, je crois, à la fac. Ouais. Et qui du coup il a ce truc de il a l'air intelligent
bien.
Quand il parle et il est charismatique et il est un peu beau gosse et tout, bon
non, et puis tu peux...
plus Menken que Peterson.
En plus Jordan Peterson il dit des trucs intéressants quand tu les sors de son idéologie, tous les trucs qu'il dit, enfin pas tous les trucs qu'il dit mais il dit des trucs qui sont intéressants, quand tu les prends tu dis ok bah ça je suis d'accord avec ça quoi, tu vois, après quand tu le remets dans tout le contexte idéologique qu'il y a derrière, non c'est de la merde en fait.
Yes. Donc c'est pas forcément rassurant de se dire que Menken c'est le futur, mais si vous cherchez un équivalent en tout cas direct dans le monde politique actuel aux États-Unis, il y en a pas, mais c'est un mélange de plusieurs choses.
Ça serait peut-être tout à l'heure, tu vois, on va en parler, mais tu parlais du fait qu'il était arrivé hyper vite.
Oui, on apprend qu'en 6 mois en gros. Donc quand il y a eu l'épisode où ils le choisissent dans la saison 3, il était au tout début, quoi.
C'est ça. Il démarrait tout juste. Et en fait, entre le moment où le président actuel a dit non, en fait, je vais pas retourner, en fait, j'imagine que ça a été un peu, entre le moment où il y a effectivement le président qui dit écoute, non, c'est mort, je vais pas y retourner, on imagine que côté républicain, ça a été branle-bas de combat. Est-ce que vous. Et en fait, c'est très intéressant. Tu parlais tout à l'heure, tu faisais tout à l'heure le parallèle avec Zemmour. Et c'est vrai que si on avait eu un Zemmour qui était un peu charismatique, parce que clairement Zemmour a le charisme du mitre,
ouais.
Bah peut-être en vrai, on aurait pu avoir plus chaud au fion, quoi.
Bah voilà. Carrément. Et on parlait du fait que par exemple, bah quand il y a des interviews de Marine Le Pen ou de membres d'extrême droite, on se dit. En vrai, quand il y a des gens compétents en face, ça se voit qu'ils sont pas très bons, quoi. Ça se voit qu'ils sont pas très malins. Et ça rassure un petit peu. Donc là, Mencken, il a l'air malin, ce qui est pire. Mencken, on en reparlera, mais oui. Ça fait peur. Back to ATN, où Greg et Tom évoquent le menu du dîner et décident qu'un petit rail de coke le soir des élections, franchement, ça fait pas de mal.
C'est incroyable, parce que je crois que Tom dit un truc du genre « C'est médicalement prouvé que c'est bon pour le cerveau. »
Oui, mais parce que Greg veut pas en prendre.
Greg veut pas parce qu'il est plutôt là, mec. Je me remets d'hier soir, donc encore une fois, on sait pas trop ce qui s'est passé, mais sans doute ça a dû être hardcore pour lui.
Et il dit je veux pas devenir accro en prenant deux soirs de suite. Donc ouais. C'est clair qu'il a au moins pris de la coke le soir d'avant, et je pense en vrai un mélange de plein.
En plus, il fait semblant de s'imiter de la coke. Tom l'oblige à prendre de la coke. En fait, c'est vraiment tout foireux de A à Z de leur histoire, vraiment.
En fait, j'ai trouvé intéressante cette scène parce que Tom, il dit clairement à Greg, tu redeviens mon Greg aujourd'hui. Genre, j'ai besoin que ce soit toi parce que want you Gregging for me. L'autre, il est nul, regarde, il me sert des sushis. Il dit quoi? Mon système digestif fait partie de la constitution aujourd'hui.
C'est genre, t'imagines si jamais tu m'amènes pas mon double shot, on peut revenir genre aux amibes.
Oui, c'est... Ok, parce que le chemin, c'est... On annonce un mauvais truc parce que j'ai pas eu mon café, parce que tu m'as pas fait mon café. La Chine voit une ouverture, la Chine envahit Taïwan, bombe nucléaire, fin de la civilisation, on redevient des amibes. Et c'est long pour ressortir de cette mare. Ok, Greg, je t'ai la fait. C'est quoi ce niveau d'importance qu'on se donne à soi-même de dire si je n'ai pas mon café, c'est la fin de la civilisation humaine, tout simplement.
Bah oui, mais c'est surtout qu'il a besoin d'avoir son Greg plus que son café.
Oui, il a besoin d'avoir son Greg. Et moi, j'étais étonnée qu'il le dise aussi clairement et que Greg lui dise aussi clairement « Non, mais j'ai plus... » Parce qu'il lui dit « T'es rétrogradé à... T'es mon Greg. Aujourd'hui, mon Greg, c'est toi. » Greg, il est là « Non, on a dit que je faisais plus ça. »
J'en ai marre de te gréguer pour toi.
Ouais, et c'est rare que les gens dans Succession soient aussi transparents sur leur dynamique, tu vois. Donc j'étais là « Ok, c'est comme s'il lui disait « Tu redeviens stagiaire. » C'est très clair que c'est ça qu'il attend de lui.
C'est pas du tout une bonne idée.
Prendre de la cocaïne au travail,
on va voir. Prendre de la cocaïne au travail, oui. Prendre de la cocaïne au travail à un moment donné aussi important dans la carrière de Tom, encore moins. Parce que Tom nous explique au tout début de l'épisode que c'est chaud pour son cul et qu'il faut qu'il fasse des audiences hyper béton, quoi.
Oui, et d'ailleurs, Kendall l'appelle au tout début dans l'intro en mode We want those numbers. Numbers, Tom. Donc il faut que ATN performe et que ça soit la chaîne la plus regardée pour la couverture des élections. Il mentionne que à leur gauche, évidemment, il y a Pierce PGN, donc les médias plutôt de gauche, et qu'à leur droite, il mentionne des médias dont on n'a jamais entendu parler.
Vera News.
Ouais, qui à mon avis sont des Valeurs Actuelles, Russia Today, tu vois. Et du coup, t'as cette idée aussi de nébuleuse de concurrence de médias
de droite.
Moins traditionnels, mais très 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 de droite. Et du coup, je pense qu'on peut dire que la cocaïne n'aide pas à gérer les aléas de la vie, comme par exemple un écran tactile qui ne fonctionne pas.
Il faut que tu mentionnes aussi les sushis.
Bien sûr. Il y a des sushis de supérette que Tom refuse de manger parce
Bodega.
Que... Bodega sushi. Bodega sushi, tout à fait. Que Tom refuse de manger, ce qui m'a rappelé Logan qui, quand, à la fin de la saison 2, quand Kendall fait son speech au lieu de se sacrifier pour la boîte, il dit « Mon père, c'est un connard » et tout. Début de la saison 3, Logan, il est en exil, entre guillemets, à Sarajevo. Et il refuse de manger la bouffe de l'hôtel et tout parce qu'il est là « Je peux pas être... » Genre, si je passe la nuit sur les chiottes, peut-être je perds ma boîte, tu vois, ou je vais en prison. Donc il y a cette idée de « Même ton corps peut te lâcher. » Et on verra que le wasabi de ses sushis n'ont pas la qualité du poisson. Mais le wasabi de ses sushis finira par créer des conséquences graves, quoi. Pour la démocratie américaine, je crois.
C'est très drôle parce que, effectivement, tu m'as balancé un tweet où il y a il y a une journaliste qui dit OK, j'ai interviewé
Matthew McFadyen, qui
joue Tom Wiseman, et qui lui a dit OK, c'est quoi le moment le plus important ou c'est quoi
Non,
le...
comment tu résumerais la saison en un mot?
Et le mec dit wasabi, elle fait OK, j'ai enfin compris pourquoi quoi.
Oui. Vraiment la seule meuf au monde qui a dû faire Ah, c'est pour ça, alors que tout le monde devant cette scène était en mode qu'est-ce qui se passe, il a du wasabi dans bon.
Très bon, Adam Wolowitz. Il avait compris que les chiottes égale la mort.
Bravo. Ouais, le gars n'avait vu venir. Il ne faut pas être coincé sur les chiottes. C'est comme ça qu'il finira par trouver son destin. On a un petit moment chez Connor, qui est à son QG de campagne, ouais. Où il y a des caméras d'ATN, et il appelle Ken pour se plaindre qu'il y a des gens qui filment, mais ATN ne diffuse pas les images, alors que c'est le chat de Schrödinger. Tant qu'on ne sait pas, il dit littéralement « Peut-être que tout le monde a voté pour moi. »
J'aime tellement Willa qui dit « Dis-lui le chat de Schrödinger.
» Il dit « C'est le chat de Schrödinger tout de suite. » En vrai, leur partenariat, il marche.
Ah oui, mais vraiment, enfin, il marche, ouais.
Bon, pour le coup, même pour moi, qui aime vraiment beaucoup Connor, et le fait qu'ils en ont fait plutôt un personnage assez positif et sympathique dans cette saison, bah, c'est aussi un épisode qui te rappelle que non, même Connor, il va en bisbille avec l'extrême droite pour un peu de pouvoir, et même sa femme, enfin, tu le sais, mais ça fait longtemps qu'on te l'a pas montré.
Ouais.
Et tu vois, t'es là, oui, c'est vrai, c'est Connor,
en fait,
c'est aussi un connard.
Tu vois, j'ai vraiment du mal à comprendre pourquoi il irait se faire chier en Slovénie, tu vois, il parle de la Slovénie à un moment donné, alors que, en fait, il est multimilliardaire, qu'est-ce qu'il en a à foutre?
Mais pourquoi tous, ils veulent avoir un travail, tu vois, si tu pars comme ça? Je pense qu'il veut la légitimité de bosser en politique, parce que c'est son rêve, et il a toujours ce truc de rentrer dans l'histoire. Et il espère faire des choses politiques.
Oui.
Tu vois, son histoire de la Corée du Nord, on sait pas. Au pire, je l'ouvrirai comme Nixon a ouvert la Chine, tu vois. Il veut qu'on se souvienne de lui. Lui, je pense, son trigger mortalité, c'est l'héritage qu'on laisse, quoi.
Oui.
Il va avoir des livres sur lui. Je suis pas sûre qu'il en ait beaucoup pour son rôle dans cette élection, puisque...
Il démarre avec le Kentucky, c'est ça? Il dit
« Ouais.
Tout peut basculer avec le Kentucky. »
Qui lui dit « Si ça se joue quelque part, ça se joue au Kentucky. »
30 secondes plus tard, les résultats du Kentucky. Et,
c'est
ouais,
Ken.
Je vais arrêter la télé.
Et j'ai trop aimé cette scène où Willa lui dit « Fuck Kentucky » et qu'il est là « Non, je ne deviendrai pas cet homme. » Son « Alas, Kentucky. » Hélas, vanity.
Et où il dit également, c'est quand même vachement plus intéressant les élections quand t'es dedans.
C'est vraiment une phrase incroyable. Genre, oh, on se fait un peu chier d'habitude, mais quand t'es dedans, c'est un peu prenant.
C'est vachement plus marrant.
Et c'est vraiment ce truc de ils sont hors sol. D'ailleurs, on les a quand même suivis pendant beaucoup de jours récemment. Il n'y en a pas un qui a été voté, c'est évident. On n'a aucune discussion sur pour qui toi t'as voté, tu vois. Ils sont pas citoyens de ce pays. Ils sont dans le monde des ultra riches et puissants. Donc c'est, pour eux, c'est un jeu. Je pense que oui, c'est comme si Connor, il avait payé très cher pour donner le coup d'envoi du Super Bowl et qu'il disait c'est quand même plus intéressant le foot quand t'es dedans. Mais mec, c'est t'es pas clair. Dedans. T'es... Genre, ça a des vrais, c'est intéressant normalement les élections pas parce que t'es dedans, parce que ça va décider des trucs pour le reste du monde et du
Connor,
pays,
quoi. Tu vois, il est tellement self-centered que voilà, quoi.
Oui.
Auto-centré, pardon.
Du coup, voilà, RIP au rêve des Conheads, président Connor, qui, jusqu'à la fin, alors il n'y avait pas de président Connor, c'était assez clair que non, mais jusqu'à la fin, il y avait cette idée de, bon, il peut avoir un rôle, ces quelques pourcents, là, qu'il n'a pas donné à Mencken, ça va peut-être faire basculer un truc, et bon, au final, pas tant.
Mais d'ailleurs, on voit que Mencken, tout de suite, il bolosse Roman quand il arrive, en disant, eh ben, ok, t'as pas réussi à me deliver Connor, quoi, tu vois.
Yes.
Et l'autre... D'ailleurs, Roman ne se laisse pas du tout faire. Il est devant tout le monde. Hein. Il aggro. Il lui dit « Non, mais en fait, qu'est-ce que tu me veux ? Parce que là, je suis pas ton deliver guy ou je sais pas quoi. »
Oui, je suis pas ton livreur Uber. Et après, Roman arrive dans la pièce en disant « Ça va, les losers, on est bien occupés à perdre. » Parce qu'ils sont en train de perdre. Donc, il y a une forme de haine entre les deux. Et alors, l'acteur qui joue Mencken s'est exprimé sur c'est quoi ce lien qu'il a avec Roman, qui a été vu comme un peu homoérotique par certains et tout. Alors, il rappelle que dans la série, Mencken, comme un bon mec d'extrême droite fascisant, candidat à la présidentielle, il a une femme et un enfant. Donc, il a en tout cas une hétérosexualité, en tout cas de façade. Après, il dit que pour lui, c'est un truc de pouvoir et de...
Oui,
il fonctionne... Il dit que pour lui, ce qui fait que Roman et Mencken, ça marche bien, au-delà d'eux, ils ont chacun un intérêt, genre Mencken, il a un intérêt à avoir Roman dans sa poche et mutuellement, c'est qu'il dit ils aiment bien être des connards tous les deux. They like being dicks. Et du coup, bah, c'est vraiment même l'un avec l'autre, c'est des connards, mais ça les, ça leur plaît, je pense, tu vois. Ils se vexent pas, du coup, quand
une autre personne. Et il y a Stories 96 leur... qui dit, et ses rimes de qualité, il faut un feat Kendall Connor. C'est,
ah oui,
c'est
oui.
Quand Connor passe un coup de fil à...
Ça arrive, la scène où Connor essaye de renégo une ambassade alors qu'il est perdu. Et où il décide de partir en petit slam avec des rimes, quoi. On va faire un point sur, c'est quoi cette histoire de truc en feu, de local en feu, qui va être l'aspect décisif. Qu'est-ce qui est en feu dans le Wisconsin? Et qu'est-ce qui, et c'est quoi l'enjeu qui se joue autour de tout ça?
C'est un bureau de vote à Milwaukee.
Tout à fait.
Qui est la capitale, on va dire, la plus grosse ville du Wisconsin, si je ne me trompe pas. Qui est d'ailleurs la ville des Bucks de Milwaukee, qui est une équipe NBA fort connue et qui était en finaliste NBA l'année passée, le saviez-vous?
Venez pour Succession, restez pour le basket.
Effectivement. Qui a d'ailleurs été éliminé de façon extrêmement nulle alors qu'ils ont terminé premier de l'Est pendant ces playoffs NBA, mais ça, on digresse.
Bah, les victoires pas méritées, c'est un peu le thème de cet épisode aussi, hein.
Effectivement. et en fait, effectivement, le bureau de vote a cramé. On sait pas trop qui a lancé ce feu. Et en fait, effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, il se renvoie un peu la balle en disant « Non, mais en fait, c'est les fachos. Non, c'est les antifa. Nani, nana. » Bref.
Oui, c'est Roman qui arrive en disant « Vous avez vu cette histoire d'incendie antifa ?» Et Shiv, elle est au téléphone avec Nate qui dit « Nous, on entend que c'est un incendie par les mankenistes. » Donc, historiquement,
oui.
Est-ce que les fascistes aiment bien détruire le processus démocratique par la violence? Oui. Est-ce qu'ils reculent devant brûler quelques bulletins de vote parce que ça va pas dans leur sens? Non. Donc sans être complotiste, moi je crois plutôt à c'est les partisans de Mencken qui ont foutu le feu.
Même. Oui, puis ça va dans le sens aussi d'une montée de violence qu'on a vue aux États-Unis avec l'invasion du Capitole, où tu sens qu'il y a vraiment une base de droite plutôt très à droite, plutôt très conservatrice, plutôt très portée sur ma liberté individuelle de posséder une arme, etc., etc. Comme il dit à un moment donné, Ravenhead, il dit vos moyens d'autodéfense.
Oui, vos moyens d'autodéfense personnelle. Ah, il y a plein de petits buzzwords intéressants. Hein.
Où on sent bien qu'il y a une vraie vindicte contre de cette base-là, en fait, contre le processus démocratique. Et en fait, bah, effectivement, on entendait dans l'épisode précédent qu'il y avait un QG de campagne à Phoenix qui avait été
attaqué par des pétards ou plus. On n'a jamais eu le fin mot de cette histoire.
Et que là, il y a deux, trois trucs aussi ça a l'air de pétarader un peu à droite, à gauche. Mais effectivement, il y a ce bureau de vote qui est cramé. Et là, c'est un autre délire parce qu'il y a 100 000 bulletins dedans.
Oui, et ça fait la diff. Et alors, même si c'est pas un suffrage direct, c'est ça qui va rendre l'élection floue. C'est que comme c'est très serré, ces 100 000 bulletins devraient être soit comptés, soit en tout cas... pris en compte le fait qu'ils manquent et que du coup on sait pas ce qu'il y a dessus, sachant que ils le disent, le Wisconsin c'est un état traditionnellement démocrate, donc statistiquement on pourrait dire le Wisconsin du coup a probablement voté démocrate, même si on sait pas exactement ce qu'il y avait sur ces bulletins. Dans le respect le plus strict de la démocratie, ben on est censé rien annoncer tant qu'on n'a pas fait revoter ou recompter, enfin, mais là on peut pas les compter, ils sont détruits, et faire un revote, il a l'air de dire Darwin que ça se fait pas pour une présidentielle américaine, parce que je pense comme c'est pas du suffrage direct et que c'est plutôt des grandes tendances, bah c'est trop compliqué de remobiliser une élection pour 100 000 votes. Mais bon, 100 000 voix, c'est beaucoup.
Mais ils l'ont fait en Floride et tout, là, dernièrement. Pas pour la présidentielle, mais pour... en fait, ça les dérange pas de le faire, mais c'est juste...
Ça les arrange parfois de ne pas le faire, c'est plutôt ça. Du coup, voilà, c'est ces bulletins de vote manquants qui vont faire qu'on peut pas annoncer qui a gagné ou pas l'élection. Les enfants décident d'aller se mêler à leur rédaction en allant sur ce fameux ground floor où ils sont pas invités. Tom essaye d'envoyer Greg les chasser, mais en fait, juste il l'écoute pas. Ce que personnellement, les gens désagréables avec Greg, ça me fait plaisir.
Toujours.
Donc, vraiment, Greg qui est là, en plus il fait 2 mètres et tout, qui essaye de les encadrer avec leurs bras, mais sans les pousser non plus. Et il l'ignore totalement. Ils sont là, c'est non. Enfin, on ne va pas interagir avec toi, tu le mérites pas. J'ai trouvé que c'était méritant. Mais Shiv décide d'avoir un petit tête-à-tête avec Tom. Qui est, rappelons-le, sous cocaïne quand même, et qui a pas d'envie, et qui a very good, not very bad, not good day.
Écoute, je me suis dit, ok, c'est mon moment. C'est enfin le moment où on va apprendre que Shiv est pregnant.
Non.
Pas du tout.
Déception. Elle lui précise, elle lui dit même pas je suis enceinte, elle lui dit je suis enceinte de toi. Donc ta théorie, on peut l'admettre maintenant.
On sait pas.
Mais tu m'as testé de paternité, on est où là?
Et moi je suis complotiste, hein. Voilà. On sait pas.
Fake news.
Tant qu'on n'a pas la preuve, tant que j'ai pas le test ADN, je sais pas. Mais on, oui, en plus.
À la base, elle vient pour s'excuser. Elle vient pas pour lui annoncer en pleine soirée électorale.
On parle de Tom.
Shiv et Tom.
On parle de Shiv et Tom ou on parle de Greg et Tom?
On parle de Shiv et
de
Tom.
Craig et... Pardon, j'étais parti sur Greg et Shiv.
Ah oui, non, sorry.
Je suis désolé.
Non, là, c'est Shiv et Tom.
C'est d'abord Shiv et Tom,
parce
après,
que
c'est Greg et Shiv.
C'est quand les enfants s'infiltrent sur le, du coup, dans la rédac, que Shiv, elle regarde Tom, elle lui fait Tom, et elle l'entraîne, et lui, il est là, j'ai pas le temps, elle fait, je sais que t'as pas le temps, mais 5 minutes.
Horrible. Parce que, déjà, Shiv, elle vient s'excuser, ce qui est cool en soi, mais c'est jamais gratuit. Il faut qu'elle attend aussi que Tom s'excuse.
Elle dit, je voulais aussi te donner l'opportunité
de
toi aussi.
Toi aussi, elle dit pas. Voilà.
Elle suggère, quoi.
Et Tom est là, quoi ? Et là, elle lui dit
Tom,
direct.
Tom, il veut pas s'excuser. Hein.
Bah, en fait, pour moi, j'ai trouvé que c'était bien joué parce que je trouve que c'est vraiment l'une des premières fois où tu vois que Tom, il ne cède pas au charme de Shiv et qu'il y a un truc cassé en lui, quoi.
Ouais.
Vraiment, vis-à-vis d'elle. Et en fait, elle lui dit direct, ah non, mais je te parle pas avec cette tête-là.
Oui, mais elle, en même temps, le mec, il est sur son enfin, il a 3 portables dans la main, oui. Il est sur, et.
Maybe, c'est pas le
en
bon.
En vrai,
moment.
Il lui a dit, j'ai pas le temps, et elle a insisté, mais du coup, en fait, soit tu te barres, soit tu écoutes, quoi. C'est du coup, je comprends qu'elle lui dise, en fait, je vais pas te faire des excuses si t'es comme ça, parce qu'il est sur son tel, il l'écoute pas, donc ça, en vrai, je le comprends, tu vois. Bah, mec, non, soit t'es là, soit t'es pas là. Bah... Barre-toi si tu dois travailler. Si tu dois vraiment travailler, dis-moi non et va-t'en, tu vois. Plutôt, si tu restes en face de moi, bah, on a la conversation.
Écoute, ok, mais en fait, moi, quand quelqu'un me dit viens, il faut qu'on discute et tout, bah, en fait, moi, je vais la suivre, même si j'ai pas le temps. Et en fait, à un moment donné, elle l'agresse directement parce que lui, effectivement, il est avec ses téléphones et tout. C'est pas le bon moment. Ça n'est
mais
pas
je sais,
le bon
je sais que c'est
moment.
Pas le bon moment. Juste... Pourquoi elle le fait à ce moment-là, à ton avis?
Ah, bah, parce qu'en fait, elle a compris. Que Madson était avec Greg, parce que Madson lui a dit, et que pour moi c'est évident qu'elle se dit ok, est-ce qu'il est au courant ou pas ? Et j'ai besoin.
Est-ce que qui est au courant de quoi ?
Est-ce que Tom est au courant que Greg a passé la soirée avec Madson et que Greg sait à propos de l'alliance Shiv Madson ? Pour moi, c'est vraiment pour ça.
Ok.
Pourquoi
je savais
que c'était.
Bah, je suis d'accord
elle
avec toi, je sais.
Agressé la
pour
veille.
Moi, c'était un truc de. Ma position est affaiblie par le fait que Greg effectivement sache que je suis en bisbille avec Madson, donc je vais, en fait, elle a tellement pas d'alliés, Shiv, tu vois, à la personne, voilà. Donc je vais récupérer littéralement la moitié de mes alliés, à savoir One Guy, qui est quand même mon mari et le père de mon futur enfant, mais je suis d'accord que c'est pas désintéressé
et
comme
je...
moment.
Mais jamais, de toute façon, de la part de Shiv.
Bah, jamais dans Succession, jamais de la part d'aucun d'entre eux, tu vois.
Et en fait, effectivement, il y a aussi ce truc où tu sens que ok, elle va avoir ses frangins contre elle, ou en tout cas. Peut-être pas Ken, mais on sait pas trop. Mais en tout cas, Roman, il a l'air d'être ultra déter pour ouais. Ken. Et elle se dit, ça peut être bien d'avoir Tom dans ma team, entre guillemets, plutôt pour les démocrates, quoi.
Oui.
Bon, tout, voilà, encore une fois, mais...
Il y a Marina dans le chat qui dit que c'était tellement violent comme échange. L'autre qui dit qu'elle a plus ou moins tué... Alors, c'est Tom qui lui dit qu'elle a plus ou moins tué son père. Ce que elle lui avait dit, genre je me sens responsable de sa mort parce qu'il est mort dans l'avion et si on n'avait pas essayé de bloquer le deal, il n'aurait pas été dans l'avion et tout. Donc elle lui dit un truc de vulnérabilité et il s'en sert derrière. C'est not a cool move. Elle lui balance qu'elle est enceinte de lui.
Elle lui balance ça comme ça en plus.
Oui, elle lui balance en fait. Mais c'était sûr qu'elle allait finir par lui annoncer comme
bien
ça.
Bien sûr.
Pour lui et je pense, bah on pensait que ce serait pour clore la dispute sur le balcon, tu vois, qu'elle finisse en mode. Surtout qu'il lui dit. T'es pas une bonne personne pour avoir des enfants. Elle aurait pu rétorquer, bah dommage, je suis enceinte de toi, connard. Et.
Elle aurait pu.
Tu gagnes un peu, t'as le dernier mot quand tu lâches ça, tu vois, c'est un peu genre, ouf. Ok.
Mais non, parce qu'en fait, elle aurait aussi pu le dire sur un vrai move d'amour vis-à-vis de lui.
Mais non, elle sait pas faire.
Du tout.
Ils savent pas faire.
Donc, bien sûr que non. Et effectivement, elle lui sort ça. Et en fait, effectivement, Tom a la pire des réactions possibles parce qu'il dit, ok, est-ce que c'est genre.
Est-ce que c'est vrai? Non, le premier truc qu'il dit, c'est est-ce que c'est vrai? Genre, est-ce que c'est seulement vrai, tu vois?
C'est-à-dire que vraiment, la confiance, elle est partie loin. Ouais. Quoi. Ils n'ont même plus de lien ensemble. Et en fait, quand elle voit sa gueule, elle dit, ok, c'est une tactique, c'est une stratégie, qu'est-ce que c'est? C'est un nouveau move de ta part. Et là, effectivement, Shiv, elle est là, ok, frère, je me casse, mais...
Et en même temps, c'est normal.
En vrai, normal.
Tu peux pas trahir tout le monde tout le temps et t'attendre à ce que les gens continuent à te faire confiance.
On peut trahir 1000 fois.
1000 personnes. Une personne. Et je trouve que dans la performance de Sarah Snook et de Matthew McFadden est super comme dans toutes les scènes qu'ils ont en tête à tête. Mais je trouve que Tom, quand elle lui dit je suis enceinte de toi, il y a un micro moment où il s'autorise à le vivre pour de vrai parce que c'est ce qu'il voulait. Enfin, c'était quand même tout un arc la saison précédente. avec des questions de est-ce que ce désir d'enfant il est lié au fait qu'il aille en prison et tout, mais lui il veut avoir des enfants avec Shiv historiquement, et du coup il y a ce moment où il vit la bonne nouvelle et ça dure genre une demi-seconde, ça se voit dans ses yeux, et après il est là, j'arrive même pas à savoir si c'est vrai quoi. Et quand t'arrives pas à savoir si c'est vrai, c'est que tu peux pas élever un enfant avec cette personne. En tout cas tu peux le faire, il va être là, mais vous pouvez plus vous reconnecter après ça.
Mais il y a Vendro Kettel qui dit Tom c'est le pire perso de la série. Franchement il y a de la concurrence hein.
C'est Greg le pire perso de la série, on le sait tous et toutes. Mais pour moi, Tom partage avec Greg le fait qu'ils n'ont pas l'excuse d'être nés milliardaires, tu vois, d'être nés complètement hors sol. Donc, on peut dire qu'il fait partie des pires, mais bon, là, franchement, dans cet épisode, il n'y en a personne pour sauver l'autre. Quoi. Donc, juste après cette scène, où Shiv comprend que Tom ne va pas se rabibocher, elle va immédiatement dire à ses frères, c'est chaud avec Tom, et ses frères, ils sont... Roman lui dit, tu veux qu'on le bute? Ce qui est un peu genre, quand Roman Roy te dit ça, c'est... Encore une fois, c'est pas des blagues ce qu'il dit Roman dans cet épisode.
Et en
fait,
il dit, on peut vraiment le faire, on peut s'occuper de ça. C'est vraiment...
Et elle répond, ouais, ça serait sympa. Donc, alors, je suis pas en mode théorie, Roman va faire tuer Tom.
Tu veux qu'on
Tom,
le fasse tuer, en plus. C'est encore pire.
Oui.
C'est pas tu veux qu'on le bute, c'est tu veux qu'on le fasse tuer.
Et c'est un peu genre, en fait, c'est pas drôle parce que vous pouvez.
Oui, mais sans aucun doute. C'est-à-dire qu'à ce niveau de fortune-là, tu peux embaucher n'importe quel mercenaire pour faire n'importe quoi.
Ah bah oui, bah on l'avait dit à un moment, c'est sûr que Logan, il a fait buter des gens, tu vois, c'est évident. Donc, mais elle est toujours dans ce truc de essayer de chercher des alliances, essayer de jouer sur tous les tableaux. Tom, ça marche pas, du coup, je vais dire à mes frères, attention, il faut se méfier de Tom et tout. Et au final, bah, elle jongle trop mal avec trop de balles et tout va finir par se casser la gueule. Mais j'ai trouvé ça intéressant que, direct, ses frères, ils soient en mode, ok. We got you. Kendall, il est là. OK, on est dans ta team. J'ai compris.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mais surtout, en fait, elle lui dit, on peut pas lui faire confiance. Je trouve ça assez dingue parce que elle dit à ses frères, on peut pas lui faire confiance.
Oui, ce qui est bon.
Bon, les gens parlent souvent d'eux. Bon.
Oui. Oui, bah ils sont tous en train de se trahir mutuellement, tu vois, sauf Roman qui en fait est le seul. Oui. Sincère. Oui. Roman, il est transparent. Oui. C'est un néo-nazi, il veut qu'un néo-nazi soit au pouvoir. Et je crois qu'il y a aucun moment où il ment dans cet épisode, il y a aucun moment où il fait des bails dans...
Si.
À un moment, il dit qu'il va chier, il va pas du tout chier. On va en parler, ça arrive bientôt. En attendant, on a d'abord de nouveau Connor, du coup, qui essaye de renégo une ambassade avec des petites rimes.
Putain.
J'ai noté ma préférée qui dit « Our fun guy in Uruguay
». Où il dit « A little coup in old Peru ».
Oui. Une vanne in Tadjikistan, vraiment. C'est ça, pour lui, ça n'a pas de sens, ça n'a pas d'importance, tu vois. Rien de tout ça n'est réel dans leur monde. Et j'aurais dû le savoir, mais j'avoue, Willa, elle m'a déçue. Parce que elle dit, il est quand même très à droite. Je suis là, oui, Willa, souviens-toi, à l'épisode d'avant, c'est toi qui avais réussi à faire changer d'avis Connor et à le garder à droite, certes, mais pas dans la droite très très brune, tout à droite.
Ouais.
Ça mais dure pas très longtemps.
Bah non, elle dit quoi? Elle dit genre le petit déj à Prague, le déjeuner à Venise, et après Connor dit et le goûter
à Dubrovnik.
À Dubrovnik, t'es là-bas, ok.
Donc déjà, rien de tout ça n'est en Slovénie. Donc clairement, tout le monde s'en bat la race de la Slovénie.
Oui.
Bon, on s'y attendait. D'ailleurs, Connor avait dit I'm a no on the slow pour la Slovénie et la Slovaquie dans l'épisode d'avant, quand il avait encore un peu de marge de négo. Pourquoi tu penses que Benken, il lui repropose une.
Parce qu'en fait, il a besoin, et pour moi, je crois qu'il ne faut pas l'oublier, c'est qu'en fait, Connor, avec son discours, en fait, il ouvre la voie. Son discours de concession, en fait, il est en train d'ouvrir la voie, et il ouvre la voie à la suite qui est, bah ok, en fait, moi, je suis en train de vous dire que c'est Menken qui a gagné, et en fait, tout son speech sur, en gros, il faut qu'on élise le meilleur et tout, en fait, vraiment, il est enfin, pour moi, il crée le momentum. C'est-à-dire qu'il ouvre le momentum. Et
oui,
j'en parle d'ailleurs à un moment donné.
Il contribue à légitimer la victoire, voilà. Kendall dit à un moment donné, de Mencken.
Il faut qu'on fasse gaffe. Kendall, quand il est encore hésitant et tout, il dit, en fait, on peut créer le momentum pour Mencken pour aller chercher la victoire. Est-ce que vraiment on a envie de ça, quoi?
Oui.
Et bah, Connor ouvre la porte, tout simplement.
Et en échange, il devient ambassadeur des États-Unis en Slovénie. Enfin,
on sait même pas. Mais...
c'est la promesse, en tout cas, à avoir. Parce que c'est aussi, c'est plein de gens qui se disent des choses au téléphone. Bon, à la fin, personne n'a signé le contrat, tu vois. Bon, on verra.
J'en place une petite pour une série Netflix qui s'appelle The Diplomat. Je sais pas si t'en as entendu parler.
Dis-moi.
Avec Kerry Russell, qui est, en gros, la meuf qui jouait Felicity dans une série de teen il y a fort longtemps.
Ok.
Juste après Dawson, tu vois. Genre période,
okay, oui.
Période post-Dawson.
Je regarde Yu-Gi-Oh!
Et qui a, je crois, maintenant 40-50 balais bien tassés et qui joue une diplomate américaine avec son mec qui est lui-même diplomate et qui est un peu une star de la diplomatie américaine, etc. Et en fait, elle est nommée à l'ambassade des États-Unis en Angleterre.
Ok.
Et j'ai regardé 3 épisodes.
C'est un peu Ted Lasso, du coup.
Et ça a l'air. Alors, c'est.
Peut-être moins fun.
Moins galerie. J'ai regardé 3 épisodes et pour l'instant, c'est plutôt cool. Surtout okay. qu'il y a des embrouilles genre féministes et tout, tu vois. C'est trop
ouais,
cool.
Ouais, ouais. En vrai, j'aime trop les séries avec genre des espions, des ambassadeurs, des trucs qui se passent entre les pays à ouais. la fois en surface et ouais. en soum-soum. Donc, maybe je jetterai un œil.
Ouais, ouais.
Merci pour cette petite reco.
Reco ambassade.
Oui. Et alors, tu parlais des débats politiques qui vont se, enfin, des interrogations de Kendall sur est-ce qu'on a envie de faire ça. La scène d'après, c'est peut-être le débat le plus open et le plus clair, puisque c'est le débat entre Shiv et Roman sur qu'est-ce qu'on fait de ce, bah, c'est le moment où Roman, il arrive en disant, vous avez vu l'incendie antifa? Et où Shiv, c'est plutôt l'incendie fasciste. Mmh. Du coup, mettons-nous d'accord. Et où ils disent un peu plus les termes de qu'est-ce qui est en train de se jouer, qu'est-ce qu'on fait de ces bulletins manquants. Shiv, elle dit, mais c'est sûr qu'ils disent démocrate. Roman, il dit, en vrai, on sait pas. On sait pas, et peut-être on s'en fout. Peut-être on décide ce qu'il y a marqué
exactement.
Dessus.
Exactement.
Et Kendall qui dit pas grand-chose.
Kendall est muet. D'ailleurs, Shiv lui demande à un moment donné « Et toi, qu'est-ce que t'en penses ?» Et il dit rien, en fait. Et c'est vraiment impressionnant de voir, voir Kendall qui est muet pendant effectivement 90% de l'épisode. Quoi.
Mmh. J'ai trouvé ça intéressant qu'à un moment, Shiv lui dit « Deviens pas cynique. » Parce qu'il commence à être en mode... peut-être Roman a raison, peut-être genre c'est juste du business et tout, et Shiv est là, non, deviens pas cynique. Et il y a ce vrai truc, en fait, enfin, Roman il est extrêmement nihiliste pendant tout, depuis ouais. la mort de son père, encore plus qu'avant, et il le dit pendant l'épisode, dad is dead, nothing matters, genre lui il est en mode terre brûlée, mais aussi il a personne, il a pas d'enfant.
Les États-Unis sont désormais un wet vagina, c'est ça?
Ouais, très... big old pussy waiting to be fucked, toujours des métaphores sexuelles, misogynes.
C'est pertinemment, oui.
Et qu'en plus...
on sait pertinemment l'état de la libido, de la sexualité de Rome.
Mettre son pénis personnel dans des vagins, ça n'a pas l'air de sa spécialité. Donc, en plus mais oui, il y a cette idée de plus tu deviens cynique, plus tu vas décider que rien de tout cela compte. Et si tu décides que rien ne compte, tu vas faire le truc facile. Tu vas faire le truc qui te bénéficie, toi. Ouais. Et il faut se rappeler que les choses ont un sens. Mais c'est ça, la beauté de Succession, c'est qu'en disant tout ça, Shiv, elle a raison. Et elle ment aussi, parce qu'elle-même est en train de faire ce qui lui bénéficie à elle.
Bah, on va le voir, mais c'est... c'est finalement le mensonge de Shiv qui fait basculer Kendall, quoi.
Oui, parce que Kendall a l'intelligence émotionnelle d'une huître et parce que Shiv a mal réussi, très très mal réussi son mensonge. Et c'est après cette scène, et c'est là du coup que Roman, c'est peut-être la seule fois qu'il l'a fait à l'envers aux autres dans cet épisode, en tout cas aussi directement, il quitte ce débat et en fait, en soum-soum, il va donc dans le fameux floor où il n'est pas censé aller, il va voir Ravenhead, qui est genre l'éditorialiste le plus polémique et
oui, c'est
nazi.
Un peu le Tucker Carlson.
Ouais, mais c'est le mec qui a lu Mein Kampf plusieurs fois.
Oui, on s'en souvient, on l'avait déjà vu dans.
On l'a vu aux funérailles, à la veillée post-mort de Logan, on l'a vu dans l'avion pour aller en Norvège et pour en revenir. Et il fait partie de la liste où Madsen a dit eux, ils sautent quand j'arrive. Donc si jamais il devait avoir un avis sur est-ce qu'il veut le deal ou pas, a priori non. Mais c'est pas ce qu'on lui demande de faire. En fait, Roman, il a bypassé toute la chaîne de commandes. C'est vraiment genre, t'as le fils Bolloré qui arrive dans les bureaux de CNews et qui dit aux Zemmour de CNews, je sais pas, je connais pas le nom des journalistes d'extrême droite en France. Voici des points des éléments de langage. Vas-y, t'as carte blanche. Le soir des élections, quoi.
Et le mec sort full complotiste. Vraiment.
Ils vont prendre vos moyens d'autodéfense. Ils vont changer votre fils en votre fille ou l'inverse. Ils vont donner de l'argent à tout le monde. Enfin, il y aura plus besoin de travail. Ils vont acheter les pauvres avec de l'argent, des aides sociales.
C'est
et
vraiment
tout,
c'est... attention. Il y a le socialisme qui débarque, le communisme qui débarque.
Ah oui, bien sûr.
Tous ces abris, les États-Unis deviennent la Chine parce qu'un démocrate, c'est un grand grand classique. Hein.
Oui. Donc donner cette plateforme là à ce gars là à ce moment là de l'élection, c'est d'ailleurs bah tout le monde est choqué, que ce soit Kendall, Tom, il y a la meuf de la, c'est Pam, la meuf qui a l'air d'être la N-1 de Tom. Mmh,
genre elle s'occupe de la prod de la soirée, j'ai l'impression.
Oui.
C'est elle qui est
Plus là. Oui, c'est elle qui doit gérer le fait que, et c'est elle qui a l'habitude de faire ça aussi. Ouais. Qui dit à Tom, en fait, on fait ça tout le temps, on a trois touchscreens alignés et tout. Bon. Ça a quand même l'air d'être un problème, leur touchscreen. Ils n'ont pas l'air de le régler. Hein.
Le touchscreen!
Fix the touchscreen! We're on it! You're not on it! The touchscreen!
Oh, horrible.
Rappelons que Tom est sous cocaïne pendant toute cette soirée, vraiment. Ouais. C'est beaucoup trop. Et en voyant le speech de Ravenhead, comme on l'a évoqué, Madson appelle Shiv et lui dit: oh, qu'est-ce vous branlez là? Qu'est-ce qui se passe?
Est-ce que t'es en train de casser mon jouet, lui dit?
Oui! Don't break my toy. J'aime bien cette. Il a une voix hyper, il a une intonation hyper traînante et boudeuse, je trouve. Skarsgård, un peu dans la vie même en interview, mais en Madson, il le pousse et je trouve que ça fait vraiment un truc de, c'est ce mec qui fait genre, il en a rien à foutre, tu vois, sauf que c'est un fucking milliardaire qui envoie des briques de sang aux gens, bref, je le reste. Et là, Shiv se dit qu'une petite conversation avec Greg s'impose.
Mais what? Bon, pardon, j'étais là-dessus tout à l'heure.
C'est très rare qu'on voit Greg et Shiv interagir déjà. Littéralement, à chaque fois qu'elle a l'occasion d'interagir avec Greg, elle est là. Non, fuck you. Donc, c'est rare qu'ils aient des scènes ensemble.
Bah oui, parce qu'en fait, son petit move vis-à-vis de Tom a pas marché.
Mm-hmm.
Et donc, Shiv, qui est globalement nul dans cette série, décide tout simplement de prendre Greg entre quatre yeux et de lui demander, est-ce que t'as envie de moi?
Ouais, enfin, oui.
Est-ce que t'as envie de me baiser?
D'abord, elle dit, est-ce que tu me trouves attirante? Et elle le laisse bégayer un petit moment en mode je ne pense pas à toi, on sait terme. Rappelons qu'ils sont quand même cousins, ou cousins à un degré de séparation. Oui. Voilà, pas
dans la famille
pas,
Roy,
voilà.
Franchement, ça m'étonnerait sans battre les couilles, hein, vraiment.
Bah, d'où ta théorie finalement. Oui. Que une des raisons pour lesquelles je ne crois pas à elle et Greg Nantes, c'est qu'ils sont de la même famille et c'est pas Game of Thrones, quoi. Donc ça se fait pas. L'inceste n'est pas un subplot de succession. Donc elle le laisse bégayer un peu et après elle lui dit parce que t'es en train d'essayer de me baiser. Et en fait, elle. Sa stratégie, c'est menacer Greg.
Ce qui est vraiment la pire stratégie.
Oui.
Personne ne fait ça. Personne n'a fait ça. Tous les gens qui veulent avoir Greg dans cette série depuis 4 saisons, juste, ils l'ont papa out, quoi. Tu vois,
ils l'ont papa out.
Ils lui donnent de l'argent, ils lui promettent des trucs. Mais en fait, qui d'autre a menacé Greg en 4 saisons?
Greg, il est arrivé à boire un rhum coca en face de Logan Roy. Et Logan Roy lui a dit, tu sais quoi, réfléchis à ce que tu veux et demande-moi.
Oh, mais c'est...
Logan fucking Roy, il a compris qu'il faut pas menacer Greg parce que Greg, il sait des trucs.
C'est ça.
Et qu'il va les dire, il a pas de camp, en fait.
Logan, il prend Roy et effectivement, Logan, il a pris Greg et il l'a mis bien, quoi, tu vois.
Il l'a mis mal à l'aise aussi parce que c'est Logan et qui fait peur.
Normal.
Mais Greg, et rappelons que Greg, c'est celui qui a vraiment roast Logan. Où sont tes enfants, oncle Logan, à ton anniversaire? Tu vois, genre, le
c'est
gars,
le seul.
Tu peux pas lui faire peur. Il a pas peur.
Il s'en bat les couilles.
Il y a je sais plus quelle saison où Shiv elle dit un truc genre quelque chose qu'il faut comprendre au sujet de genre mes frères et moi ou des Roy, c'est que we don't get intimidated, tu vois, genre en fait on n'a pas honte, vous pouvez pas nous faire honte, vous pouvez pas nous menacer, on est les Roy, on est déjà les rois du monde. Et elle a pas compris que Greg, tu peux pas lui faire peur, il faut juste lui faire un chèque.
Bah oui, et puis en plus il est très transparent parce qu'il demande, il dit okay,
littéralement
mais... Ça, c'est une info un peu en or. Alors, toi, qu'est-ce que tu me proposes encore plus doré?
C'est en or comment? Genre, c'est pas subtil, quoi, du tout.
C'est vraiment dingo. Et elle lui dit, non, juste, tu vas garder tes organes en toi et machin. Je suis là, c'est vraiment la pire réponse que tu puisses faire. Enfin, je comprends pas.
Mais Shiv a toujours été nul pour se faire des alliés, tout comme Roman est très mauvais pour se faire des alliés. Enfin, littéralement, il a un allié, c'est un néo-nazi, tu vois, parce que en vrai, même Kendall, il est en train de la faire à l'envers à Roman et de l'exclure du truc. Et ces gens-là, ils se rendent pas compte que, en fait, si tu traites mal les gens, ils vont pas te traiter bien, parce qu'ils sont habitués à être bien traités par la vie et encore pas tant, mais en tout cas par la société. Et en fait, si tu... Ouais, alors, il y a Vendro dans le chat qui rappelle, Logan a aussi martyrisé Greg avec la scène de la saucisse. Oui, mais je pense que Greg, il a fait bore on the floor, pas parce qu'il avait peur, mais parce que Tom lui disait c'est ça qu'il faut faire et qu'il était là. Alors je dis pas qu'il a passé un bon moment.
Et puis c'était il y a longtemps en plus.
Aussi, c'est quand il était tout miskin, tout débutant dans la famille. Donc bah c'est le début de la fin pour Shiv. En vrai, elle le sait pas, mais elle vient de sceller son destin. Et peut-être quelque part, celui des États-Unis.
Alors, je suis pas
malheureusement.
En vrai, je suis pas tout à fait d'accord parce que pour moi, son vrai move débile, mais on va en parler un peu plus tard, c'est quand elle
fait le full coup de fil.
Le full coup de fil. C'est vraiment le cringe.
Ah, le cringe. Franchement,
vraiment, j'ai 4 ans, quoi. C'est...
Ouais. Il y a ma copine Soraya qui m'a dit que c'était presque aussi pire que quand Roman envoie sa dick pic à Logan. Oui. Après, du coup, je lui ai dit pourquoi tu m'as refait penser à la dick pic à Logan. Oui. Maintenant, j'y pense. Mais en effet, on est sur cette tier list de. C'est gênant. It's Wasabi Time. Qu'est-ce qui se passe dans cette scène? Qu'est-ce qu'ils sont en train d'essayer de négo avec Darwin? Qui est, du coup, négo impacté par du wasabi malencontreusement laissé sur le bord d'un couvercle. Mais c'est quoi le sujet?
Bah, en gros, alors si je me trompe pas, c'est le moment où ils sont en train de réfléchir à, ok, est-ce qu'on annonce ou pas que le Wisconsin va à Mencken?
Mm-hmm.
Est-ce qu'on décide de, alors je sais plus comment ils finissent par dire pending victory, oui. Genre victoire en cours,
victoire
en attente.
En suspens, voilà. Ouais.
Mais débile total, c'est justement là, à ce moment-là, qu'il faut faire preuve de plus de retenue possible parce que, bah, en fait, on sait pas. Donc quand on sait pas, bah,
on ne dit pas.
On ne sait pas. C'est le chat de Schrödinger. Exactement. Et en fait, Roman commence par dire ok, en gros, il vient foutre la pression. Et il y a Tom qui dit c'est moi qui fais the call quand même. Il dit ouais, on va faire the call ensemble, quoi. Tu
ouais.
vois, là. Et il y a Darwin qui est donc censé être la voix de la raison, la voix indépendante et tout, qui est là bon, ok, les gars. Et en fait, tu sens vraiment qu'il est mal parce que bah, il n'a pas vraiment envie. Est-il vraiment taillé pour faire face à Roman, je ne crois pas,
peu.
En termes de psychologie et tout, donc non. Et en fait, à côté de ça, t'as Greg qui est en train de bouffer ses sushis avec
Greg, il s'en bat la race.
Qu'est-ce qu'il fout là?
Bah, il Greg pour Tom. He's Gregging for Tom.
Bah non, mais
là où il y a Tom, il y a Greg.
Oui, ok, mais en fait.
Et okay. C'est un peu leur war room, tu vois, c'est l'endroit où ils ont pris de la coke et tout. Enfin, ça a l'air d'être la pièce où ils parlent des trucs.
Oui.
Et un truc que j'ai compris, que j'ai pigé au deuxième visionnage, parce qu'au premier, j'étais très... Ce chaos wasabi m'a un peu déconcentré, c'est que c'est pas le... Enfin, le mec, il est tombé dans leur poche au moment où ils ont dit « Il faudrait que quelqu'un vienne l'expliquer à l'antenne et ça pourrait être toi. » En fait, ils l'ont sur la fame. Ils l'ont en lui disant « On va te mettre sur Fox News le soir des élections. » Parce que c'est au moment où ils disent « Ça pourrait être toi » qui fait... C'est vrai que je pourrais le faire. J'étais là, bâtard. Donc il y a aussi ce cynisme de même les organes indépendants, bah, c'est oui. des hommes, c'est des gens qui sont faillibles.
Oui, parce que n'oublions pas que sur France 2, par exemple, sur TF1, etc., il y a toujours des représentants de l'IFOP, des instituts de sondage, etc., etc.,
oui.
qui viennent et qui sont à l'antenne, quoi.
Et quand t'es le mec de l'ombre depuis je sais pas combien de présidentielles, bah peut-être que t'as envie de pour ouais. une fois d'aller expliquer, tu vois. C'est aussi genre je vais expliquer un truc complexe, je vais pouvoir expliquer oui. mon travail. Enfin, je pense tu sais c'est le genre de job où
Bien
personne
sûr.
Comprend vraiment ce que tu fais et tout. Donc ils l'ont comme ça et c'est au moment où ils s'installent pour bosser sur du coup cette presse qui va dire que c'est pending, qui touche le wasabi de Greg et il s'en met dans les yeux et du coup ça brûle. Et Greg lui verse de l'eau au citron pétillante dans les yeux.
It's lemon, Greg.
Ça part en couille, mais si vite.
Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Vraiment, les mecs ont écrit ça. C'est-à-dire que vraiment, à un moment donné, ils se sont dit, ok, on va écrire cette scène.
Je sais pas quand est-ce que t'as cette idée, franchement. Genre, je sais à quel moment les scénaristes, ils se disent, et là, le gars, il se met du wasabi dans l'œil. Et Greg, il met de la limonade dans l'œil après.
Je crois pas que Darwin soit un employé d'ITN, on en parlait un peu plus tôt, mais à mon avis, c'est vraiment le alors certes, il est employé freelance là pour cette soirée-là pour bosser pour ITN, mais à mon avis, il vient vraiment d'un institut de sondage, enfin, il est vraiment
ouais, je pense aussi.
La voix indépendante quoi.
Ça alors ça dit peut-être des choses sur lui qu'il fasse ça pour ITN, peut-être
oui.
que bah personnellement, il est pas trop mal à l'aise avec les valeurs d'ITN, mais il travaille pas pour eux, c'est pas ses chefs.
Non, on l'a jamais
Et
vu en plus.
C'est au début avant de finir par céder, il est plutôt en mode en fait, enfin c'est moi qui décide,
c'est moi qui
dis quand c'est assez clair pour pouvoir l'annoncer. Au final, c'est pas lui qui dit, puisque comme, et du coup, ouais, c'est comme il a du wasabi dans l'œil, il peut pas faire la présentation comme quoi c'est pending, et donc il décide, c'est ce qui fait qu'il rate un petit peu. Alors, c'est pas pour le Wisconsin, ça, c'est pour un autre état. Parce que, en gros, ils annoncent du coup un état qui devrait être pending,
l'Arizona.
Et ça les amène plus près de, du coup, si on dit que l'état où il y a le truc en feu, c'est réel, c'est bon. En gros, ils font un pas de plus vers.
Mais c'est pas ça, c'est que d'abord ils annoncent que le Wisconsin c'est pending. Donc en gros, ils disent en même temps c'est pas pending, c'est juste Mencken a gagné.
Mais ça ils le disent pas à l'antenne. Ils disent jamais non justement comme
ah,
le
oui.
mec il a du wasabi dans
oui,
les
oui.
yeux, tout l'angle de on va dire que c'est en suspens. Non, c'est
oui.
full force. Oui, il a gagné.
Oui,
et du coup le dernier état s'il le gagne, il gagne. C'est un peu ça.
C'est
donc
incroyable.
Ils font un pas de plus. C'est pas l'état décisif, mais c'est un des derniers états décisifs. Enfin, c'est l'état décide d'appeler fait... trop tôt, quoi.
C'est ça. Beaucoup trop tôt.
Parce que, quelque part, il y a eu du wasabi dans les yeux. C'est l'acteur qui chante All I Want for Christmas dans Love Actually. Je ne peux rien voir d'autre.
Ah bon?
Attends, dans quelle scène de Love Actually? Parce que je l'ai bien, mais j'ai pas, j'ai ce gars que de Breaking Bad. Alors ensuite, mais on en a déjà parlé, à voir si on a des choses à rajouter. C'est là où il y a la scène avec Connor qui accepte la Slovénie, avec Willa qui décide que c'est ok l'extrême droite si on peut dîner à Vienne et déjeuner à Dubrovnik. Et où Connor, bah, fait son discours. Alors on en a un peu parlé, qui ouvre la voie à la future légitimation de Mencken aussi, quoi. Et qui est, mais j'ai trouvé ça intéressant quand Connor fait son discours. Je crois que c'est Willa et Shiv, enfin tous les personnages qu'on voit regarder le discours de Connor sont un peu en mode oh waouh, un peu flippant mec, parce que moi j'avais un peu l'impression qu'il était censé faire un discours plus modéré et qu'il s'est un peu emporté tout seul en mode les conheads arrivent, l'Amérique tu as raté et tout, tu vois, je suis là parce qu'il vient de dire à Willa non mais je vais pas m'énerver,
oui.
Tant pis pour ma vanité, bah, et au final non, donc je suis là.
Bah, parce qu'en fait il est taré. Tout simplement.
Oui, oui, non, ils sont tous fracassés. L'épisode rappelle aussi que Connor n'est pas juste un idiot un peu inoffensif. C'est en fait, heureusement qu'il a pas gagné. Parce que s'il avait gagné, rappelons que son plan de campagne, c'était genre supprimer les impôts, je crois. Voilà. Oui. Notamment pour les riches. Donc je suis pas sûre que ça aurait mis les États-Unis dans un bon état, quoi. On a ensuite peut-être la discussion la plus importante de succession sur quand est-ce qu'on mange du steak et quand est-ce qu'on mange du poulet. Et qui décide si on mange du steak et du poulet. Et qu'est-ce qu'on en fait des années plus tard? Tu parlais du fait que tu regrettes l'absence de flashback et tout. Moi, je trouve que ce genre de scène, elle te dit tellement plus qu'un flashback, ce genre de dialogue. Et j'aime bien me représenter le reste, tu vois.
Mais il y en a c'est des tout petits morceaux. C'est-à-dire qu'on comprend les dynamiques actuelles et ils nous filent vraiment des petites miettes, quoi. Tu vois. Et même si c'est, je suis d'accord avec toi, c'est typiquement un symbole de, bah, des relations complètement explosées, éclatées au sol qu'ils ont ensemble les uns avec les autres. Ça explique un petit peu. Donc en gros, si je me trompe pas, il mangeait toujours du poulet ou du steak. Et en gros, Roman, il voulait du steak.
Non, du poulet.
Roman, il voulait du poulet, c'est ça?
Non, oui, t'as raison. Roman, il voulait du steak.
Voilà.
Kendall, du poulet. Enfin, c'est pas genre c'est tout le temps, mais en gros, c'est Roman et Kendall qui débattent de qu'est-ce qu'on fait. Roman, il dit, moi, je veux que ce soit Mencken. Et la question, c'est un peu, bah, pourquoi on ferait ce que toi, tu veux? En fait, c'est ça, c'est que c'est pas du tout une discussion sur le bien fondé de leurs décisions politiques, économiques et médiatiques. C'est pourquoi on ferait ce que toi tu veux et pas ce que moi je veux. Chacun se pose la question.
Parce que quand on était gamin, en fait, c'était toujours toi qui décidais ce qu'on allait manger.
Ouais, Roman y dit, parce que quand on était gamin, quand tu voulais du steak, et quand je voulais du steak et toi du poulet, on avait toujours du poulet. Et c'est ça sa logique, c'est mon tour d'avoir ce que je veux. Et du coup, Kendall a cette phrase incroyable. Donc parce qu'on a mangé trop de poulet quand on était petit, il faut que j'aime bien le fasciste. Et Roman lui dit oui. Et ça...
Incroyable.
Mais on est où?
C'est génial. Bah, ça explique en même temps pourquoi déjà il faut pas travailler en famille.
Oui, de fou. Il y a trop de bad blood.
Les histoires de famille, c'est de la merde globalement, parce qu'en fait, il y a des histoires comme ça qui sont non réglées et qui restent pendant des années non dites.
Ah, ça pourrit bien, quoi. C'est en fait déjà la perspective d'avoir un duo de co-PDG d'une grande chaîne de télé le soir de l'élection qui sont pas d'accord sur comment traiter l'élection, c'est déjà ultra chiant. Mais si les deux PDG, ils ont grandi ensemble et ils sont frères, mais laisse tomber, ça va jamais, ça peut pas être une décision de business saine ce qui va se passer. Mais je trouve que ça montre très bien, en fait, qu'est-ce qui est cassé entre eux aussi, tu vois. Oui. En fait, fin, vous aviez du poulet ou du steak, enfin, votre vie, ça va, tu vois.
J'allais dire surtout dans l'éducation qu'ils ont reçue et qui est complètement fracasse, parce qu'en fait voilà, tu peux avoir des doses mais tu peux aussi réussir à bien en parler, quoi. Ça peut être cool.
Ouais, mais moi j'aime beaucoup quand ils évoquent, voilà, juste des bribes de leur passé. Shiv, elle l'a fait il y a deux épisodes où, bah, quand elle leur a mis le nez dans leur caca en mode vous êtes en train d'essayer de qu'il le deal et vous me le dites pas, où elle a dit ah oui bien sûr, Shiv a renversé du lait au chocolat dans ta Range Rover, papa, et t'es là, ah, j'ai envie de savoir c'est quoi le bail de la Range Rover.
Bah, c'est pareil. En fait, je trouve ça cool.
Mais je le saurais jamais.
Bah, voilà. Je trouve ça cool qu'ils le disent à ce moment-là. Mais en fait, en vrai, j'aurais aimé encore plus le voir.
Je comprends. Il y a Karim dans le chat qui dit, ah, c'est toi, Fabrice Florent. Je ne connais que ta voix.
Bonjour.
C'est lui, Fabrice Florent. Regardez-moi
est-ce
comme
que Karim,
il est beau et frais.
Tu as un effet que j'appelle l'effet Coé. C'est-à-dire que le jour où Coé, à l'époque, Coé ne faisait que de la radio sur Fun, etc., il y a fort longtemps. Et le jour où il a fait de la télé pour la première fois, j'ai fait, Mais il a cette gueule là, Koé.
Ah ouais, c'est trop bizarre. Moi, j'aime pas voir le. J'aime pas voir le visage des podcasters que j'écoute.
Voilà.
Parce que je suis tout le temps là en mode. Ouais. Non, c'est pas ça.
Et je le voyais bien parfois, tenté, mais non. Parce que je faisais beaucoup de vidéos chez Mademoiselle où j'étais derrière la caméra et donc les gens ne connaissaient que ma voix. Et parfois, je voyais dans le regard des meufs que j'allais interviewer. Ah, c'est toi.
Ah. Ah.
C'est trop marrant.
Ça m'a fait pareil avec Difool, le dit Bloody Cam. Ah oui.
Je connais cet effet.
Oui, maintenant que toutes les émissions de radio sont filmées, parfois streamées et tout, t'as moins d'occasion de découvrir la tête de quelqu'un après
alors
avoir
que
beaucoup
écouté.
C'est
trop cool la voix en plus.
Mais grave. Moi,
on aurait dû faire de la radio. Vas-y, coupe.
Non, on est sur Twitch. Laisse-moi. Juste après cette discussion tragique du poulet et du steak, c'est aussi là où Roman il dit papa est mort, rien ne compte et le pays n'est qu'un immense vagin qui attend d'être pénétré pour être plus poli qu'il ne l'est. Donc c'est là où ce nihilisme commence à sortir et après ce débat avec Roman, Kendall se dit bah je vais aller débattre avec Shiv. Je vais aller consulter Shiv pour savoir quoi faire et il est hyper transparent avec elle.
Ouais.
Parce qu'il lui dit même des fois je me dis que je pourrais faire le job tout seul. Et comme Menken, il est proche de Roman, bah peut-être que je veux pas faire élire Menken parce que je veux pas donner du pouvoir à Roman. Genre, peut-être que ça joue quand même. Et j'étais là, waouh, attends. Des fois, on oublie que Kendall est en thérapie, mais en fait, Kendall est en thérapie.
Kendall est en thérapie, effectivement.
Il est hyper lucide sur lui et il est transparent avec Shiv, quoi.
Et qu'est-ce que fait Shiv ? En échange, elle lui ment à la face et elle lui fait croire qu'elle appelle Nate pour justement comprendre un peu mieux est-ce qu'il y a vraiment moyen d'aller déréguler, enfin d'aller chercher la dérégulation, etc. Et qu'en fait, il fasse annuler le deal si jamais
en gros, Kendall, il lui dit donne-moi une raison d'aller dans ton sens, ce qui est déjà genre maybe not le fascisme, c'est une raison, et c'est ce que Shiv essaye un petit peu de lui amener. Il lui demande est-ce que je suis un bon père, elle lui dit mais t'es quand même un homme bien, donc c'est pour ça en fait que tu sais la décision qu'il faut prendre
moment,
et tout.
Là, genre, j'ai pas été un bon père, mais si, ça a été.
Oh, t'as essayé. C'est tout ce qu'on peut se faire.
T'as fait du mieux que t'as pu.
C'est fou. Vraiment, cet homme n'appelle pas ses enfants depuis 3 ans. Hein. Et il a cette phrase tragique. Est-ce que il dit, des fois je me demande si le poison a pas, c'est pas transmis.
C'est pas transmis.
Et Shiv, immédiatement, elle lui dit non. Donc il y a vraiment ce truc aussi d'enfant traumatisé par le même daron, où il lui dit en gros, des fois je me demande si je suis pas comme papa, et elle lui dit non, t'es pas comme papa. Ce qui est quand même, pour moi, un truc, c'est sincère quand elle lui dit, tu vois. Mais comme c'est sincère quand il protège Roman qui se prend une baffe de son père, tu vois. Tu peux pas dire que t'es comme papa. Papa, c'est, on sait. C'est papa.
Ouais, et d'un autre côté, Shiv, c'est le scorpion, tu vois. Donc, moi, sa parole, et pour moi, c'est ça aussi qui fait basculer Ken. C'est-à-dire que elle lui dit des choses où Ken, il est en mode, ok, en fait, c'est rassurant ce que tu me dis, ça me fait plaisir et tout. Et 5 minutes plus tard, il va apprendre qu'en fait, Shiv lui ment.
Oui, et tout ça, comme lui, il ment à Roman, enfin, dans la scène d'avant, tu vois. Tous ces gens ne font que se mentir et se trahir mutuellement.
Entre Roman et Ken, il y a quand même une forme de transparence qui est quand même moins vraie, moins authentique que justement cette scène qui est entre les deux là. Et en fait, pour moi, c'est ça qui.
Ken, il a fini l'épisode précédent en disant à Frank, One Head, One Crown. Oui, il est en train de trahir Roman, juste pas là dans les 10 minutes qu'on voit, mais en vrai. Ouais. Toute son activité, le mouvement qu'il a impulsé, c'est je vais trahir Roman et être seul aux commandes. Et il en parle carrément à Shiv, tu vois. Donc je suis là, oui, bah Shiv l'a trahi. Et aussi, Shiv l'a trahi dans un but qui a un aspect positif qui est de ne pas faire élire un fasciste, là où Kendall trahit Roman dans un but de garder du pouvoir. Mais Shiv le fait aussi pour garder du pouvoir, parce qu'elle veut pas que le deal se fasse. Et en gros, enfin. Oui, Shiv lui ment, mais Shiv lui ment parce que Kendall lui dit « J'ai besoin que tu me donnes une raison de plus de pas faire élire un fasciste, une raison de plus que j'ai une fille racisée, que t'es une femme. » Et je pense qu'il y a aussi ça, c'est que Shiv...
Non, parce qu'il est obsédé par le deal.
Oui, voilà, mais c'est je veux dire, il devrait avoir des raisons, tu vois. Mais il lui dit « Donne-moi une raison, donne-moi quelque chose de la part de Nate et de l'équipe de Jiménez sur le deal, sur le fait qu'ils vont essayer de stopper le deal. » Et si tu m'obtiens ça, ok. Enfin, il lui promet pas, mais en gros, il lui dit j'ai besoin de plus. Donc, donne-moi plus de. Va négocier plus pour qu'on fasse pas élire un fasciste. Et Shiv a cette décision de merde. Donc, elle fait semblant d'appeler Nate.
Il a vraiment rien à dire d'autre que. C'est vraiment le pire move à faire. À ce niveau-là de discussion, de manigance, de négociation, de trahison, etc. Mais qu'est-ce que tu pouvais faire de pire?
Alors,
d'autant plus qu'elle sait
En vrai, ça aurait pu marcher.
Elle sait que Kendall a une ligne directe avec Nate.
Oui, mais elle sait aussi qu'ils sont pas spécialement alliés et que Nate il lui a mis un stop. Oui, mais
la preuve.
Pourquoi? Enfin, en fait, il y a un monde où Kendall il l'appelle pas Nate parce qu'il l'appelle pour insister, tu vois. Il y a un monde où Shiv elle gère un peu mieux son mytho. Kendall il l'appelle pas Nate. Et en fait, 2 heures plus tard, c'est bon. C'est aussi ça, c'est qu'on est sur une temporalité courte, tu vois. Donc Shiv elle se dit pas, attends, ce mensonge je vais devoir le tenir 18 mois, tu vois. C'est en fait là, on est dans l'urgence, dans le soir de l'élection. En vrai. C'était pas 0% de chance que ça marche, hein, ce bluff. C'est juste que ça a raté, mais comme tout leur bluff, ils ratent, en fait. C'est un échec aussi débile que fucking Kendall qui est coincé dans les bouchons et qui rate la mise à mort, professionnelle de son père, tu vois. Ils sont tous, ils ratent tous quand ils essayent de faire des gros moves. Ils ratent souvent, quand même. Du coup, bah, elle a raté, quoi. Parce qu'elle a pas du tout appelé Nate. Et que ça va, assez vite se savoir, puisque, donc ils reviennent débattre avec Roman. Elle dit ouais j'ai eu l'équipe de Jiménez. Bon, ils vont y réfléchir et tout.
Ça va bien le poisson.
Au moins elle promet rien de trop précis.
Oui.
Mais elle essaye de faire le minimum syndical pour que Kendall dise ok d'accord, on va pas aller avec le fasciste. Sauf que pour avoir une ultime confirmation, Kendall sort de la pièce pour appeler Nate. Et après il regarde Shiv par la porte du trait. Et je suis en mode.
Cette scène vraiment où tu vois les échanges de regards où en fait il est en train de comprendre, tu vois qu'il se balade tout le long de la pièce pour finir par rentrer de l'autre côté. Ou bien sûr entre temps il croise Greg qui était là
toujours
en train de se balader.
Egg.
Greg qui est toujours là au bon endroit au bon moment. Ou je sais même pas pourquoi il lui en parle à Greg en fait.
Parce que il a envoyé Greg espionner Madson à l'épisode d'avant et qui sait qu'il a passé la nuit avec Madson.
Voilà.
Donc il comprend que Shiv a pas appelé Nate. Il est là, attends, pourquoi Shiv elle m'aurait menti sur appeler Nate? Je lui ai demandé d'appeler Nate pour niquer le deal. Maybe Shiv elle veut pas niquer le deal parce qu'à la base c'est Roman et moi qui avons décidé de niquer le deal, pas elle. C'est ça aussi, c'est bah en fait oui, elle veut pas niquer le deal. Vous lui avez jamais demandé son avis, hein. Vous avez juste fait votre vie. Donc guess what, elle essaye de faire ce que elle aussi elle veut, comme littéralement vous. Et bah il y a Greg qui passe, il sait qu'il a passé la soirée avec Madson et je pense qu'il sait que Greg est pour l'instant Team Kendall Rome, sauf si Shiv lui avait promis un truc. Oui. Elle aurait pu le récupérer mais elle l'a pas fait. Et quand Kendall
comprend.
Il regarde Shiv et elle sait qui
Shiv.
C'est et il
oh là
sait
là
qu'elle
là.
Sait qui c'est et pendant son roman il a pas l'info. J'étais là, c'est vraiment une gamine prise la main dans le pot de confiture quoi.
Effectivement, c'est vraiment bah et tout le monde joue bien là, c'est-à-dire que encore une fois ils sont tous tellement exacts, c'est-à-dire que vraiment t'arrives à ressentir dans ton corps le malaise, la trahison du côté de Kendall. Le truc de « Oh putain, je me suis fait niquer !» Ma tête va tomber dans 5, 4...
Vraiment, trop d'années de vie pour ces quelques secondes... Trop d'années de vie perdues pour ces quelques secondes de télévision. Ouais. T'as remarqué que Greg, il sourit à Shiv?
J'ai pas...
Elle le regarde s'éloigner et il regarde par-dessus son épaule et il lui sourit. J'étais là, quel connard.
Bah,
et en même temps,
il a raison.
Dernière interaction, elle lui a dit « Je vais sortir tes organes par ton anus. » Donc, bah il est là, bah, je t'ai ken.
Juste, voilà. Je vais te ken. Attention, je vais te ken. Prépare-toi.
Quid du deal avec Pierce et l'acquisition de PGN, nous demande Kinshima. Bah, il y a littéralement plus que Shiv qui s'y intéresse et encore pas trop. Donc, ça va pas se faire, hein. Enfin. Dans tous les cas, ce rachat dépend de, il faut qu'ils aient l'argent de la vente à Gojo. Donc, tant qu'il n'y a pas de deal, il n'y a pas de rachat de Pierce. Et soyons sérieux, je pense qu'il n'y aura pas de, rachat de Pierce.
Je suis d'accord avec ce que dit Glenn. C'est-à-dire, ils ratent tous, ils se trahissent tous aussi. Mais quand Shiv se plante, leur jugement est bien plus radical et sévère. C'est vrai que Kendall est tellement violent avec elle où il lui dit, genre scumbag, c'est ça? Il lui dit
non,
t'es qu'une ordure.
J'ai plus la formulation, elle va me revenir.
Ah là
mais
là
il lui
là,
dit un truc
il
qui,
il
lui dit au lieu de lui dire piece of shit, il lui dit un truc pire, genre piece of trash ou un truc. Enfin c'est pire, tu vois, c'est pas vulgaire, mais vraiment c'est déshumanisant. C'est il la regarde comme une merde dans le caniveau quoi.
C'est terrible.
Et alors quand il rentre dans la pièce une fois qu'il a compris, le premier truc qu'il lui dit c'est I'm a good guy. C'est vraiment il revient sur leur conversation en disant tu m'as vraiment dit tout ça juste pour m'avoir, alors que oui et non en même temps, tu vois.
Un peu oui c'est... quand même.
Oui, un peu oui, mais un peu non. Enfin, tout comme lui.
Bah, comme ils jouent ensemble.
Comme chacun, ils sont en train de s'entreplanter des couteaux dans le dos parce que c'est tous des scorpions, quoi. Il y a Askeladd qui dit le petit moment où Kendall imite Shiv en se foutant de sa gueule parce qu'elle bégaye, elle est là aïe, 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 aïe. Petit callback à Logan qui fait la même chose dans le season final de la saison 3. Je déteste quand ils se moquent de Shiv. Je déteste quand ils imitent les gens. Parce que c'est vraiment un truc de pré-ado, tu sais, de... Ça me fait vraiment cette vibe de collégien au fond du bus où t'essayes de leur dire « faites moins de bruit », ils sont là « faites moins de bruit !» Ah putain, mais vous respectez rien, ça sert à rien de vous parler,
c'est
là.
C'est l'humiliation pour le coup, c'est vraiment de l'humiliation, quoi.
Ouais.
C'est juste, attends, t'as déjà la tête sous l'eau, bouge pas, je vais te l'enfoncer encore un peu plus, quoi.
Et c'est horrible à quel point Roman il jubile de ce qui se passe, quoi. C'est ouais. vraiment, lui, il attendait que ça, il a été gagné. Odieux avec Shiv, il est misogyne de nouveau parce qu'il lui dit, parce que bon, après, c'est toujours le pire, c'est que. Ils ont pas tort à chaque fois, mais parce qu'elle est un peu en mode c'est pour la démocratie et tout, ouais. Il dit non, je pense que tu fais ça parce que ton copain t'a plaqué, ce qui est hyper condescendant et misogyne. Et en même temps, c'est vrai que la décision de Shiv, elle est pas pour le bien de la démocratie, elle est pour son bien personnel, bien parce qu'elle, elle veut pas que le deal avec Madson tombe à l'eau. Mais tout comme eux aussi, quoi. Donc c'est juste, fais pas semblant d'être mieux que nous. C'est ça qui fait Roman beaucoup. Et je trouve que ça se voit encore à ce moment-là.
Ouais.
Du coup, bah ordre est donné. Ok, Tom. Let's go, on annonce.
Et là, pour le coup,
Kendall, en fait, il décide hyper vite.
C'est très intéressant, c'est que tu vois Kendall qui sort de son mutisme et qui décide juste, ok, en fait, tu m'as niqué, bah, je vais aller contre toi. C'est-à-dire que ouais. Kendall n'a pas d'avis personnel sur le truc et n'a pas d'opinion personnelle. C'est juste, il veut que sa sœur perde à ce moment-là. Sophie, oui. C'est pas grave. Rava, c'est pas grave. Il s'en bat les couilles, là. À ce moment-là, là, il s'en bat les couilles. Il est vraiment juste, ok, en fait, bah, je vais te faire perdre, si c'est ça.
Mais du coup, ça devient une décision facile. C'est voilà. Ah, tu as essayé de me ken, bah je vais te ken et je vais te kill comme le killer que je suis. Ça, c'est facile à prendre comme décision. Et en fait, il se réactive vraiment.
Ouais.
C'est au moment où il se rend compte qu'il est trahi par Shiv qu'il arrête d'être ce Kendall un peu traînard qui a tout l'épisode, un peu mou, un peu indécis. Il est là, ah!
L'odeur okay. du son, c'est vraiment.
Bah, ils connaissent que ça, tu vois. Ils ont pas d'autres façons de fonctionner dans la vie, quoi. Du coup. Alors, il y a cette petite scène avec Greg et Jess, l'assistante de Kendall,
incroyable,
là.
Incroyable, Jess.
Au moment où Greg est censé rentrer dans la rédac et leur dire « Let's go, on annonce la victoire de Menken », il a ce petit moment avec Jess. T'as kiffé ?
J'ai trouvé Jess... En fait, pour moi, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que Greg n'en a strictement rien à foutre. Il est là, bon, bah ok, alors il va falloir que j'y aille, parce qu'en fait, ils m'ont demandé de le faire, et en fait, si je le fais pas, bah je vais me faire rouspéter, donc, en gros...
I want to be in the good books,
voilà,
Mr. Snippy Snip.
Et en fait, t'as Jess, qui est une femme racisée, en fait, qui est là.
Oui.
Ok, bah, a priori, moi, ça va vraiment avoir un impact sur ma vie à moi.
Toi, tu l'as lu comme ça, ouais.
Bien sûr.
Moi aussi, hein, mais ouais. J'ai vu qu'il y avait des gens un peu confus de à quoi elle sert cette scène avec Jess. Pourquoi Jess, elle est bizarre? Parce qu'en soi, Jess, elle est dans ce monde-là, tu vois. C'est une femme noire, mais c'est aussi l'assistante de Kendall Roy, qui est quand même depuis longtemps dans la team extrême droite, tu vois. Donc, en tout cas, professionnellement. Et en fait, si t'as pas de problème à faire du business avec l'extrême droite, t'es d'extrême droite, tu vois. C'est juste, tu peux pas séparer ça. Enfin, tu l'encourages quand même, donc. Jess, en vrai, elle est dans la team des gens de droite depuis le début, même si elle n'est pas, elle, milliardaire. Donc, il y a des gens qui ont été un peu confus. Tu vois, on l'a vu dire oui à tout ce que Kendall lui dit. On l'a jamais vu remettre en question quoi que ce soit dans les dingueries qui se passent, quoi. Parfois, faire des grands yeux, mais c'est tout.
On la voit pas beaucoup cette saison, à vrai dire.
C'est-à-dire elle m'a manqué.
Jusque-là, en fait, pour moi, jusque-là, Ken, il était plutôt dans la team progressiste. N'oublions pas. Hein. C'est-à-dire que pour moi, il était plutôt en mode « Ok, le renouveau, c'est moi, etc. » Et en fait, on n'a pas vu... Jess depuis 3-4
épisodes
hein, je crois, on est en train de voir petit à petit le côté obscur de Kendall sortir, et en fait finalement on sait pas trop ce que Jess en pense, on l'a pas trop
on
vu.
Sait pas exactement, du coup c'est pour ça que je te dis ok, toi tu l'as interprété comme je suis une femme noire donc ça va vraiment impacter ma vie l'élection d'un fasciste, donc je suis moins détendue que toi grand mec blanc cis hétéro qui a l'air oui c'est un job quoi. Mais il y a cette, il y a beaucoup cette discussion de ce truc de c'est pas ma responsabilité, je n'ai fait que suivre les ordres, tu vois, qui est aussi un truc qui fait très écho à des heures très sombres de notre histoire. Hein. Donc c'est à quel moment ta responsabilité individuelle elle commence. En fait, oui, Greg, il peut ne pas aller dans la pièce et ça changera rien, mais il sera pas le mec qui a été dans la pièce, tu vois. C'est quoi tes propres valeurs à toi? Et parce que Zmut dans le chat dit même si Greg ne l'avait pas fait, ça n'aurait rien changé. Au final, il arrive en même temps que Tom. Askeladd qui dit j'ai cru une demi-seconde que Greg allait pas le faire. Je pense que des fois, même si ça change rien, c'est important d'avoir fait ou pas fait le truc.
Je vous invite vraiment à aller regarder. Alors, je me souviens plus exactement comment s'appelle le mec, mais à aller regarder toutes les expériences de Stanley Milgram sur la soumission à l'autorité, où le mec.
Ouais, alors c'est en vrai, c'est pas des. Donc c'est le mec qui a fait l'expérience des prisonniers où il a mis des gens dans le rôle de prisonnier, de geôlier et tout. Oui. Pardon, je t'ai coupé.
Non, mais vas-y.
Non, juste. C'est pas vraiment conseillé, enfin c'est pas scientifiquement dans le champ de la psychologie, c'est des expériences, il y avait tellement de problèmes dans le process, il a vraiment fait ce qu'il voulait.
C'est très intéressant de voir comment à un moment donné, en tant qu'être humain, on peut suivre une tendance juste à l'autorité. Effectivement, alors il y avait plein de biais, mais quoi qu'il arrive, moi je crois qu'à un moment donné, quand t'as un uniforme, tu gagnes des galons à ce que le reste du monde te suive, juste parce qu'en fait t'as décidé d'avoir, juste parce que t'as un uniforme, quoi. Donc et en fait rien que ça.
Star cravate du coup ici.
Exactement. Et pour moi ça fonctionne toujours, quoi.
Oui, il y a plein de gens. Enfin Tom, on aurait pu attendre de Tom qui dise bah non moi je vais pas le faire. Il y a le mec, le fameux mec de l'IFOP ou en tout cas Darwin là qui aurait pu dire non je vais pas le faire et ils finissent tous par dire. C'est pas vraiment moi qui décide. Je fais juste
tu le vois, d'ailleurs,
ma part, hein, mais c'est pas moi qui l'ai élu, le gars.
Je le disais au début, mais pour moi, c'est très intéressant de voir comment Tom, au début, dit... En fait, c'est Michael, j'ai besoin d'être en forme, etc. Parce qu'en fait, c'est moi qui vais décider de ce qu'on met à l'antenne. Et en fait, à la fin, Tom est en mode chabite total. C'est pas moi. En fait, that's not my call, you guys. This is your call. Et en fait, c'est là-bas. En fait, non, mec, d'où tu sors ça, en fait, à quel moment
tu t'es le chef de la chaîne,
en vrai. Quoi. C'est ouf.
Oui, s'il était professionnel et pas aussi à l'aise avec l'extrême droite, lui aussi, il pourrait dire, en fait, les gars, oui, vous êtes mes patrons, mais j'ai la liberté éditoriale, genre, je suis prod de cette chaîne et c'est moi qui vais dire quand est-ce qu'on dit quoi à l'antenne, merci, bisous, quoi.
Et puis on va le voir, il va s'en prendre plein la gueule parce que les autres chaînes vont dire qu'est-ce qu'ils sont en train de foutre et effectivement, ça va être Tom qui va être mis en avant comme... le responsable de tout ce fiasco.
Le mec
quoi.
Qui a donné le go. Merci beaucoup, Bloody Cam, pour le sub. Merci infiniment. Vous avez un petit sub goal en bas, là. Un sub et un follow goal en bas de l'écran. N'hésitez pas si vous avez un sub ou un prime qui traîne ou si vous voulez en offrir, ce qui fait aussi très plaisir. Hier, on a eu plein de subs offerts sur la chaîne. J'étais trop contente. Birdseye, il y en a eu un qui est tout le temps sur le chat et qui en avait pas. Donc, j'étais ravie. Merci beaucoup, Bloody Cam. Je vois aussi pas mal de follow, donc de nouvelles personnes. Hello, bienvenue. Vous pouvez aussi, bien sûr, vous abonner à la chaîne. Et ça, c'est gratuit. Donc, c'est cool. Il y a soupçon que c'est Jess qui aurait leaké. Donc cette histoire de Tom, c'est Tom qui a donné le go et on voit que c'est bah, la chaîne de Pierce qui a mis un graphique avec vraiment sa tête en gros et tout. En fait, à la toute fin de la scène avec Greg, quand Greg il rentre dans la pièce avec Tom, Jess elle sort son téléphone. Donc peut-être que c'est elle qui aurait leaké. Après,
après tout le monde sait que Tom est à la tête d'ATN, hein, c'est pas un secret quoi.
Oui, mais peut-être que c'est elle qui a leaké à quel point... C'est pas la rédac qui a décidé, c'est pas l'intervenant indépendant qui a décidé, c'est vraiment Tom qui est rentré dans la pièce à un moment qui a dit on va faire ça, parce que ses chefs lui ont dit certes, comme dit Kinshima, le titre de l'épisode America Decides, qui est aussi le titre de l'émission de ATN, est ironique, au final c'est illusoire.
Bah, ça en dit long sur le cynisme de ces gens et qu'en fait, effectivement, c'est pas l'Amérique qui décide, c'est genre Roman.
Oui, c'est fucking Roman Roy et Kendall parce que sa sœur lui a dit un truc qui lui a pas plu. Quoi.
Parce qu'il y a des histoires de poulet et de steak.
Ouais, parce qu'ils ont mangé trop de poulet quand ils étaient petits.
Américain, démocratie, nanana, tu sais.
Nanana.
Comment il dit, genre, à un moment donné, Roman, il dit à Kendall, mets-toi dans les seins de l'histoire. Fait, ouais. Comme ça, c'est vraiment mec.
Il y a vraiment, il y a pas beaucoup de respect pour l'enjeu, les enjeux qui sont en train de se dérouler sous leurs yeux.
On peut dire ce qu'on veut de Logan Roy, mais j'imagine que il avait quand même un peu plus de prestance et de conscience de ce qui était en train de se jouer à ce moment-là. Ils sont tellement nihilistes, là,
surtout Roman.
Les siblings, là.
Mais je pense qu'il faut pas trop idéaliser Logan non plus, tu vois. Je pense qu'il avait pas beaucoup plus de valeur politique.
Avoir quelques petits flashbacks.
Le préquel avec James McAvoy, or we riot.
Ouais.
Discours de victoire pour Jared Mencken, peut-être le nouveau président des États-Unis, source ATN. Et d'ailleurs, il mentionne dans son discours, une source médiatique très reconnue vient de m'annoncer, donc c'est bon. Donc il y a vraiment le
objective.
Lien...
Impartial.
Oui, il y a vraiment le lien de cause à effet entre ATN a dit que je suis président, donc bonjour, je suis président. Et il a un discours qui fait froid dans le dos et avec une attitude semi-joviale, semi-menaçante, je trouve.
Mais quel acteur extraordinaire.
Ah ouais, ouais.
Que j'ai jamais vu nulle part ailleurs.
Il jouait dans Weeds, et en vrai, il s'appelle Justin Kirk, et il a fait pas mal de... En vrai, il a bonne carrière, enfin, il a aussi une petite cinquantaine, je pense. Et alors, dans son interview pour Variety, il dit « J'ai joué plusieurs fois des personnes juives, mais ce n'est que mon deuxième nazi que je joue. » Et il dit « J'aime à penser que ça dit des choses sur mon range en tant qu'acteur, genre la diversité des rôles que je peux jouer, parce que du coup, bah,
parce que c'est vrai
tu
que
ferais un bon nazi, c'est pas toujours très
c'est
sympa.
Ouf. Il apparaît quoi? 3 minutes à l'écran. On l'a pas revu depuis une saison.
Ouais.
Et le mec glace le sang.
Ouais.
Il est génial.
Du coup, je vous mets dans le chat et dans les notes du podcast le lien vers un post Reddit qui est en anglais, donc on va vous en parler un petit peu, qui analyse certains éléments de langage du discours de Mencken qui sont pas forcément très très clairs pour les gens comme toi et moi qui sont pas versés à l'étude de l'extrême droite américaine. Donc, il dit beaucoup de choses dans son discours. Les choses les plus évidentes qui ont été notées sur Reddit, c'est le terme démagogue. donc un leader politique qui cherche le soutien par s'adapter aux désirs les plus primaires, enfin en gros promettre monts et merveilles à la population, la fameuse démagogie. Donc il dit je ne suis pas un démagogue dès le début, c'est clairement un démagogue en vrai, puisqu'ils disent que le peuple et une certaine catégorie du peuple a envie d'entendre. Il parle de welfare kings and queens, tu l'avais ça?
Non.
C'est un terme...
Le welfare, c'est l'État-providence, c'est ça?
C'est l'aide sociale. En gros, le welfare, c'est les différentes aides sociales et les aides de l'État. Et les welfare kings and queens, c'est un terme péjoratif et souvent raciste en plus, parce que c'est souvent des populations racisées envers les gens qui vivraient des aides sociales sans travailler. Et qui, c'est l'équivalent de les cassos qui achètent des télé HD, des iPhones avec le RSA, tu vois. C'est ce truc de « on leur donne trop et en plus, ils l'utilisent pas pour acheter des légumes à leurs enfants ». Il parle, alors ça je l'avais pas du tout, de scorched marketplace, donc un état du marché, un monde business scorché, un côté écorché.
Écorché, ouais.
Et donc ça, la personne dit, ça peut être une référence à l'idée du marketplace, ça revient à l'idée de deep state, de qu'il y a des gens qui contrôlent les États-Unis, qui ne sont pas le peuple ou les représentants élus. Et on vire tranquillement vers « ils nous contrôlent, ils contrôlent les marchés ». Qui contrôle les marchés et l'argent? Probablement les Juifs. Donc on est c'est le début de la pente glissante, puisque juste après, il dit que dans ce marché incontrôlable, il y a des hommes louches qui négocient comme des marchands de tapis pour les meilleurs taux. Donc t'es là « ok ». Il est pas anticapitaliste, par exemple.
C'est un peu plus clair.
Il est pas contre... Il parle pas de Waystar Royco quand il parle de Scorch Marketplace. C'est un petit peu plus clair. Il dit qu'il veut un monde où un leader émerge du peuple, presque comme s'il avait été manifesté, voulu par le peuple.
Ouais, donc il y a un truc très déique derrière.
Ouais, et assez totalitaire aussi, quoi. Il y a un côté
prophétique.
Et puis très, c'est la volonté du peuple, whatever happens, qui va triompher, quoi.
Très Hitler, là, pour le coup, hein, qui... Oui.
Oui, oui, rappelons que l'homme a été élu, etc. Quand même le plus peut-être le plus clair. Est-ce qu'on ne regrette pas d'avoir quelque chose de propre dans ce pays pollué? Donc toutes les idées de propreté, de pureté, de whiteness qu'il amène dans des termes métaphoriques bien sûr, de ce pays est corrompu, la société est salie et il faut la nettoyer, mais ça renvoie à la purification ethnique et à une forme de nettoyage du peuple par le peuple et pour le peuple. Donc plutôt flippant. Et ils finissent sur something proud and pure. Donc vraiment, la fierté et la pureté, c'est des mots-clés des Proud Boys, évidemment. Et du reste de l'extrême droite. Voilà pour les petits... ce qui fait que ce discours, on se rend compte, et on se rend compte quand les personnages le regardent aussi, qu'il est flippant, mais on n'avait peut-être pas, en tant que Français, tous les éléments de langage. Il y a Marina qui nous dit « Petite prédiction qui vaut ce qu'elle vaut. Roman pense que c'est bon, Mencken va faire une loi anti-tech, mais si ça se peut, Mencken va lui mettre à l'envers. » Oui, il a dit qu'il allait bloquer le deal. Il l'a dit.
Ouais. Et moi, franchement, ça m'étonnerait pas que Mencken lui mette à l'envers.
Oui, je pense aussi. Mais je pense qu'il peut aussi le faire pour garder Roman dans la peau. Ça dépend de ce qu'il arrange. Il va faire qui lui bénéficie.
C'est-à-dire
à lui.
Qu'on a bien compris aussi à quel point Logan tenait un peu par le zizi l'ancien président, The Raisin, dont il parle à plusieurs reprises. Qu'on imagine un peu être Trump d'ailleurs.
Je vois plutôt un genre de Biden mais républicain, genre un vieux de la vieille, parce que Raisin, j'imagine un mec tout ridé, qui est un républicain pas très malin, mais pas très méchant pour un républicain, mais peut-être. Bon, après, c'est compliqué parce qu'il a fait la guerre en. Mais genre un George W. Bush, un mec qui est pas très bon, mais qui est pas fou comme Trump, tu vois. Un mec qui est dans la lignée de oui, c'est comme ça qu'on fait. C'est ce genre de gars qu'on élit président. Là où Mencken, ça a l'air d'être une rupture quand même avec. La façon dont on fait de la politique aux États-Unis. Kinshima dit à ce moment-là, il lâche ATN sur lui.
Oui, sans doute.
Oui et non, parce que s'il ne bloque pas le deal se fait. Et Roman et Kendall sont sortis de ATN. Donc, et Mattson va mettre qui il veut. Donc peut-être pas des gens pro-Mencken, mais il peut se dire, je vais plutôt essayer de mettre Mattson dans ma poche.
Il voulait transformer ATN en Bloomberg. Hein, donc vraiment le...
Oui, a priori, il ne va pas donner une grosse plateforme à...
Non.
À des allumés comme Mencken. Par contre, c'est là où ça peut être intéressant qu'il mentionne dans l'épisode une fois ou deux qu'il y a ces autres médias encore plus à droite qui sont un peu sur leur plate-bande. Et du coup, bah, peut-être que Mencken va dire... parce que Mencken, c'est le seul au Congrès des Républicains qui était là alors que Logan était présent, qui était en mode « Moi, Etienne, je m'en fous, je pense que Logan Roy, c'est un dinosaure, no offense, mais en fait, la télé, on s'en fout. » Donc peut-être qu'il a pas besoin d'Etienne, il va tout faire sur Internet et dans des médias chelous. Et ça va être encore moins contrôlé, quoi. Il en a juste besoin pour légitimer sa victoire. Après, il va pas respecter les organes classiques du pouvoir, je pense. Donc, tout peut arriver par la suite. Du côté de ce que Mencken a promis ou pas de faire, je pense qu'il va faire comme Logan Roy. Whatever the fuck he wants.
Exactement.
Et devant ce discours, Roman dit « On a juste fait une bonne nuit de télé. » Il est bon pour les audiences, c'était ça leur logique avec Mencken à la base. «
Just made a night of good TV.
Ouais. »
C'est vraiment...
Et il dit « Nothing happens. » Rien ne va se passer. Et Kendall est en mode « Oui, parce qu'à la fin, c'est le marché qui décide. » Ils sont en train de se rassurer mutuellement sur « Non, mais c'est pas si grave. » Genre, c'est pas si important comme rôle président des États-Unis. C'est à la fin, de toute façon, c'est le capitalisme, c'est les gars comme Mattson et nous qui décidons, ce qui est pas faux, mais en vrai...
Le cynisme total de... Ok, en fait, notre métier, finalement, à nous, c'est de faire de la télé. Et donc, bah là, on a fait de la bonne télé. Donc, ok, on peut se dire qu'on a bien travaillé ce soir.
Ouais, on a bien bossé. Bah, voilà. Le premier coup de fil de l'épisode, c'est Kendall qui dit à Tom « We need those numbers. Il faut qu'on fasse de l'audience. » On peut dire qu'ils ont probablement fait de l'audience et réparé le drame de cet écran tactile qui ne fonctionnait plus, finalement.
Exactement.
Petit détail que j'avais pas quand j'ai regardé l'épisode. La veille de la diffusion de l'épisode, il y avait Trump sur CNN. Il y a CNN qui a invité Trump, et ça a été une décision très controversée parce que peut-être arrêtons de donner une plateforme à Trump, et que CNN est assez critiquée depuis pas mal d'années maintenant pour sa gestion un peu désastreuse de... En fait, c'est pas parce que quelqu'un est connu qu'on peut lui donner... Enfin, que ça veut rien dire de lui donner un micro, quoi. Et dans un des podcasts que j'écoutais, je crois que c'était The Watch, de Vanity Fair, justement, il disait, en fait, on peut critiquer autant qu'on veut le fait qu'il y ait eu Trump hier soir sur CNN, et en même temps, de quoi on a tous parlé aujourd'hui, du fait qu'il y a eu Trump hier soir sur CNN. Donc d'un point de vue purement audience, c'est un bon move d'inviter Trump ou d'annoncer la victoire de Mencken. D'un point de vue ce que ça fait au reste du pays, bof, bof. Est-ce que t'as compris que c'est du coup quand même peut-être pas sûr qu'il va être président ?
Bien sûr.
Il y a quand même un truc juridique à faire,
c'est
quoi.
C'est pas gagné, mais de la même façon qu'entre Al Gore et George W. Bush en 2000, ça a duré pendant des mois, le Beans. Donc ouais, il va sans doute y avoir une bataille juridique, etc. On sait pas trop où ça mène. Mais ce qui est... En fait, peu importe. C'est-à-dire que ce qui compte là, c'est que en fait, Mencken soit sorti du bois en disant... Non, en fait, c'est moi qui ai gagné. Et très souvent, c'est le premier qui parle qui a raison. Mmh. Et c'est exactement ce qui s'est passé là.
Oui, et qu'est-ce qui va se passer si jamais son élection est révoquée légalement ? Il va se passer que c'est les franges les plus radicales de ses supporters à qui il a offert un boulevard, ils vont aller casser des trucs et agresser des gens. Enfin, oui. C'est ça le risque, quoi. C'est l'émeute du Capitole, etc. Ça vient aussi de ce truc de « on m'a volé ma victoire, on m'a volé ma légitimité, on vous ment, on ne veut pas de nous, etc. » Et c'est aussi pour toute cette histoire de pourquoi ces gens-là, ils défendent le port d'armes, c'est dans l'idée complètement absurde que si un jour le peuple doit se défendre contre son propre gouvernement, il sera armé pour le faire. Donc encourager ces gens-là à s'armer, c'est aussi les encourager à dire un jour, on va se soulever contre ce deep state, contre les gens, nous sachons. Donc une fois que t'as dit que t'as sorti de la boîte Mencken est président, le faire re-rentrer dans la boîte,
c'est très très dur,
ça se fait pas sans heurte. Bisous Alix, on a bientôt fini, de toute façon c'est la fin de l'épisode.
Je suis d'accord avec Karim, ce qu'il disait, c'est que effectivement on a fini par voir Trump se faire lâcher par Fox News en 2020 là.
Et ouais, pour l'Arizona.
Bah oui, parce qu'en fait ils ont fini par annoncer que c'était Biden qui était président finalement, et on a vu après ça que Trump s'est fait lâcher par Facebook, par Twitter, etc. À partir du moment où il a commencé à perdre, après tous les réseaux sociaux étaient en mode...
Excusez-moi, je sais finalement, pas pourquoi ma caméra saute, c'est très chiant.
Et je trouvais ça intéressant en fait, le parallèle.
Qu'est-ce que t'as pensé de cette... Alors, on a ensuite Shiv qui promet que ça va pas en rester là et qui est saoulé, et Mattson qui l'appelle en disant « mais vous êtes complètement taré, qu'est-ce que vous venez de faire ?» et tout. Et on a une scène de fin avec Kendall dans sa voiture.
Oh là là.
Moi, j'ai rien de spécial à dire sur la scène de fin de Shiv. Je suis là. Honnêtement, je sais pas ce que tu peux faire à ce niveau-là. Enfin, t'as perdu,
t'as perdu.
Ouais, c'est ça. T'as perdu. Elle dit, je vais aller à la presse et tout. Et à un moment, elle dit, je vais tout dire à la presse. Et Kendall, il lui fait deux pouces en l'air littéralement. Bah, tu vas jamais le faire, mais.
Nani nana.
Ouais, ils sont tous désagréables. Et Ken, du coup, il est dans sa voiture. Il voudrait parler à ses enfants, mais il dorme. Qu'est-ce que t'as pensé de cette scène de fin très loganesque que j'ai trouvée avec Kendall chauffeur ?
Il parle à son chauffeur comme on avait Logan qui parle à Colin quelques épisodes plus tôt dans la série, où c'est son meilleur ami, quoi. Et en fait, ce qui est terrible, c'est que...
Ah, c'est son seul ami, surtout. Où est Stewie ? Où est le petit verre de whisky avec Stewie là, après avoir fait élire un nazi alors que Stewie est racisé et que peut-être il est pas d'accord avec cette décision.
Bah ouais, et on comprend que en plus le si je me trompe pas, il est racisé aussi son chauffeur.
Je sais pas, je
c'est
sais
quoi
pas à quoi il ressemble. Finlay, un truc comme ça.
Non, non, non,
dit.
Pas Finlay.
Hop. Si je fais Kendall Driver, ça suffit pas. Hein.
Non, je crois pas.
Ficrette.
Donc tu vois.
Non, il est blanc.
Ah.
On a. Attendez, je vais vous. Non, je vais pas vous montrer, ça va être chiant, mais je vous mets un lien. On a. Okay. On a un petit screen de lui. Il est pas racisé pour le coup.
Dans ma tête, Ficrette, tu vois, il y avait un côté. Ok, c'est peut-être un Indien ou un truc comme
ah,
ça.
Ah yes,
tu vois.
Ok. Je crois que c'est son nom de famille. C'est plutôt un truc un peu poche british d'appeler le personnel par son nom de famille, tu vois.
Ok. Bon. Alors my bad, tu vois, parce que dans ma tête, c'était vraiment. Ok, mec. Non seulement t'es en train de t'adresser à lui. Et de...
Ça aurait été pire.
Bah, dans ma
tête. Ouais, mais c'est
ma
possible.
Tête, ça.
Oui, genre, ok, t'as un chauffeur arabe et t'es là. Oh là là, dis donc, quelle histoire, hein. L'élection d'un néo-nazi.
Quelle journée.
Ouais, Very Logan, cette scène de fin avec cette réflexion de. Il y a des gens qui savent vraiment juste pas faire des deals. J'étais là, ça va, mec. Enfin,
Jude.
Il se prend vraiment pas pour de la merde. Hein.
Bah, oui. Et globalement, il est nul en plus, donc.
Oui. C'est la fin de cet épisode où l'Amérique a finalement décidé peu de choses et où Kendall et Roman Roy ont décidé beaucoup de choses tout seuls de leur côté. L'épisode prochain, c'est les funérailles, a priori, parce que c'est le lendemain.
Ils
disent on se voit demain à l'enterrement, à Rava. Et du coup, l'épisode 10, on ne sait pas encore exactement de quoi il sera fait en termes de... C'est quoi le contexte ? On verra, mais l'épisode prochain, c'est l'enterrement et le discours de Roman, du coup.
Bah, on va voir.
Qui va être... bien high sur sa victoire d'avoir fait gagner un néo-nazi, donc je pense que ça va être un moment de vie intéressant.
Ouais.
Qu'est-ce que tu vois dans la suite, dans la fin, toi ? On est tout proche, là ?
Bah écoute, pour moi, en fait, Logan, tu vois, justement, Logan, j'allais dire, Kendall, il a vraiment la voix royale pour se loganiser à fond la caisse, là, sur les deux derniers épisodes, et je sais plus, j'ai entendu un podcast qui disait, ok, en fait, c'est vraiment l'histoire de Richard III, l'histoire de Kendall, c'est en gros le mec finit par tuer tout le monde pour finir par être le seul roi tout seul dans son royaume et il est content.
Oui.
Et c'est
régner sur des cendres.
C'est très possible que Ken fasse exactement ça, c'est-à-dire que juste il finisse par buter ses deux frères et sœurs pour régner tout seul et finir par maybe finir comme Logan, c'est-à-dire tout seul
tout
avec
seul,
des enfants qui le détestent.
À parler à son chauffeur parce qu'il y a personne d'autre qui l'écoute. Marcia sera-t-elle aux funérailles ? J'y compte bien et je pense que oui parce que Connor a évoqué qu'elle est très impliquée dedans. J'ai une inconnue sur Caroline, la mère des enfants. J'espère qu'elle y sera parce que j'ai envie de voir une scène entre Marcia et elle. Je crois qu'elles se sont jamais croisées dans la série et c'est un peu mon rêve, j'avoue. Et aussi parce que Shiv, elle est enceinte et il y a tout ce truc avec sa mère et tout, c'est compliqué. Et aussi parce que l'actrice est super. Elle est dans Silo d'ailleurs en ce moment. J'ai l'impression que Roman meurt à la fin. Dans les théories un peu wild de Mimi, je pense que j'en ai déjà parlé, mais il arrête pas de répéter. Il y a rien qui compte. Papa est dead. Je suis mort. C'est mort pour moi. Là, on a perdu avec cet épisode toute la sympathie qu'on pouvait avoir pour lui parce qu'il est complètement néo-nazi.
Et quand tu le vois mourir, alors tu crois qu'il se suicide pas parce que là, il est pas suicidaire, en fait. Il est plutôt au contraire. Il est vachement dans l'action.
Oui, il est dans l'action.
Sauf si Menken le trahit. C'est-à-dire que pour moi, il peut y avoir aussi ce truc
Et Kendall, il va le trahir. Il sait pas encore que Kendall l'a lui fait à l'envers, tu vois. Peut-être que le jour où Kendall, il lui dit, en fait, je suis CEO tout seul et je t'ai sorti du truc, Roman, il fait, bon, allez, c'est ciao. Et peut-être qu'à la fin, du coup, c'est Roman et pas Kendall. Enfin, ça fait 3 saisons qu'on est là. Est-ce que Kendall va se suicider? Il y a différents moments où on est en mode. Et moi, je trouve pour Roman, mais encore une fois, c'est parce qu'il est tellement tout seul. Il y a Karim dans le chat qui dit sa partie humaine est déjà morte.
Oui,
bah en vrai.
Et là on le découvre en fait.
Ouais, c'est peut-être plus tragique qu'il meurt pas, tu vois, et qu'il reste juste une coquille vide de seum et de haine à errer avec tout le pouvoir qu'il a dans ce monde, tu vois. Peut-être que c'est aussi Succession, c'est pas une série qui fait des fins toujours très propres. Parfois la fin c'est et ils ont continué à faire ça et c'était horrible tout le long.
Ouais.
Mais j'ai cette idée de Moi j'ai l'impression qu'il va mourir. Voilà, c'était ma prédiction post élection.
Souvenons-nous que Mimi a eu pas mal raison.
Ouais, mais pas mal tort aussi.
Non.
Toi, tu te souviens de quand... Si, en vrai, Soraya, elle a rattrapé mon podcast, et elle était en mode...
Alors, t'as une pote à toi qui a rattrapé le podcast avec des épisodes de retard.
Ouais.
Et qui, effectivement, alors, poste quelques trucs de... T'es à côté de la plaque, mais t'avais quand même, fin de l'épisode 2,
j'avais
que
dit
Logan
aucune
mourait.
Idée d'où ça m'était sorti, mais on avait prédit la mort de Logan, oui, tout à fait. Ah, d'ailleurs, là-dessus...
On a déjà fait notre prédeuil du côté humain de Roman. Merci, Mr. Malik.
I've got the bad grief guy. D'ailleurs, c'est marrant, ils avaient cette idée, je t'en avais parlé, que le showrunner, il avait dit que l'épisode le plus choquant de la saison, c'était peut-être le 8e. Donc, et du coup, beaucoup de gens attendaient beaucoup de cet épisode et ont parfois été un peu déçus, genre... Bah, c'est à peu près ce qu'on se disait, il va y avoir l'élection et oui, les mecs d'ATN vont faire gagner Mencken. C'était, bon, un peu attendu. Et je pense qu'il y a un mix de... Ils pouvaient pas dire c'est le troisième, parce que sinon on aurait su que le troisième, c'était probablement Logan qui meurt. Tant que Logan est vivant, si on te dit un épisode hyper choquant qui arrive, t'es là, bah, du coup c'est probablement Logan qui meurt. Et c'est aussi, en fait, ça a été un peu monté en épingle par la presse, où en vrai c'est une question random en tapis rouge, où il réfléchit vaguement et il dit... Ah, parce qu'on lui demande c'est quoi l'épisode le plus choquant de cette saison, et il réfléchit vaguement, il dit ah, peut-être le 8, et je pense que bah c'est choquant quand même de voir l'extrême droite au pouvoir, mais les gens qui s'attendaient à du coup ça doit être un épisode tellement maboule, bah certains ont été un petit peu déçus, mais parce qu'ils s'étaient un peu trop monté la tête, je pense,
ouais,
dans leur coin.
Peut-être on aurait pu se dire que Tom à la fin il se suicidait, mais non, il se suicide
pas.
Bah,
on y a pensé épisode précédent, mais là je sais pas c'est quoi la suite pour Tom, honnêtement. J'en ai aucune idée. J'ai hâte de voir ça.
Bah écoute, moi, ma take, c'est qu'il va redescendre. Il va se dire, OK, en fait, elle est vraiment enceinte de moi. C'est-à-dire qu'il y a... Est-ce que j'ai un truc à jouer avec elle et...
Rester avec Shiv.
Elle m'a rabiboché avec.
Mais d'un autre côté, Shiv, c'est pas un bon parti en ce moment parce que ses frères l'ont outé,
ouais, mais
quoi.
Justement, tu vois, c'est... OK, en fait, la meuf est dead. Elle porte mon enfant. Et en fait, c'est ce que je voulais. Bah... Elle est au fond du trou. Maybe c'est le moment de la récupérer.
Yes, et elle finit avec moi, mais pas pour les bonnes raisons. Quoi.
Ouais.
Tout cela est déprimant. J'ai hâte d'être à lundi prochain, du coup, pour regarder un nouvel épisode de Succession. Je pense qu'on a fait le tour. Merci Fabrice.
Merci,
c'était trop cool. Merci d'avoir été là sur le chat. Est-ce que tu peux juste check dans les questions Instagram s'il n'y a rien qu'on a oublié, mais je pense qu'on a fait un bon tour. Moi, je regarde si je vous envoie raid quelqu'un ou pas. Est-ce qu'il y a Marie Kigai sur Twitch ou pas? Si oui, on y va. Ben oui, il y a Marie Kigai. Oh là là, elle a du monde en plus. Marie est de retour de vacances en Écosse. Je pense qu'elle a plein de choses à vous raconter. Donc je vous envoie bien évidemment Red Marie. Et on vous donne rendez-vous mercredi de la semaine pro, donc pas demain, celui d'après, pour BFF en live d'ailleurs le soir.
Peut-on espérer que Greg ait un cas de conscience et aille vers une rédemption?
Non. Non.
MDR.
Il y a Grosso Merdo qui dit merci pour ce débrief. Le prochain débrief, je fais un jeu à boire quand vous dites machin est nul et deux shots si c'est Fab qui dit Shiv est nul.
Ouais, ça risque de revenir.
Ils sont tous nuls. Écoutez, on verra la semaine prochaine qui est le plus nul de cette semaine. Merci Fabrice.
Merci.
Abonnez-vous au podcast de Fabrice, ils sont super. On vous parle de cinéma un dimanche sur deux dans le Film Club. Donc si vous aimez nous écouter ensemble, en plus de nous écouter séparément, ça se passe là-bas. Un gros bisou. Bye.
Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour soutenir le podcast, pensez à lui mettre 5 étoiles et un gentil commentaire sur votre appli préférée. Vous pouvez retrouver le reste de mes contenus audio sur le flux Mimi Hegel, mais en podcast, m'écouter avec la créatrice de contenu Marie Kigaï chaque mardi dans le podcast BFF et me retrouver tous les dimanches en compagnie de Fabrice Florent dans notre podcast cinéma Le Film Club. Pour les récaps rigolos de séries, ça se passe sur Patreon. Tous les liens sont dans la description. Je vous souhaite une très belle journée et un grand merci à Valentin Nortier pour le générique.